mercredi 14 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, Londres, dernière étape du voyage d'Elisabeth II. Le cercueil vient de passer la nuit à Buckingham Palace. Il sera exposé au public à Westminster jusqu'à lundi matin. Les Londoniens très nombreux hier soir pour accueillir l'arrivée du convoi funéraire. Reportage dans un instant. Brainstorming pendant ce temps-là à Bercy. Comment boucler un projet de budget contraint par la flambée des cours de l'énergie? L'exécutif ouvre le dialogue avec les oppositions, mais n'écarte pas l'hypothèse de passer en force pour le budget avec le recours au 49-3. Emmanuel Macron qui met aussi le débat sur la fin de vie sur la table. Le chef de l'État va lancer une consultation citoyenne sur cette question très sensible. Elle pourrait aboutir à une loi sur l'euthanasie l'an prochain. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la fin d'un long périple qui a commencé au lendemain de l'annonce du décès d'Elisabeth II. Le convoi funéraire est arrivé hier soir à Londres. La dépouille royale a passé la nuit au palais de Buckingham. Le temps maussade n'a pas empêché les Londoniens de se presser devant les grilles et tout au long du parcours. Reportage de notre envoyé spécial dans la capitale britannique, Stéphane Place.
Massés derrière les barrières longeant Constitution Hill, des centaines de personnes ont patiemment attendu sous la pluie l'arrivée du cortège funéraire. Le corbillard vitré a franchi les grilles de Buckingham Palace à 21h30. Observant d'abord un silence respectueux, la foule a ensuite applaudi la princesse Anne qui accompagne sa défunte mère. Émus aux larmes, David et Alison tenaient à assister au retour de la souveraine à Buckingham Palace. Chez elle, insistent ces Londoniens.
C'est une expérience très émouvante. Vous savez, la reine, c'est comme si c'était quelqu'un de la famille, un être cher, très spécial. Et maintenant, elle est dans cette maison qu'elle aime avec sa famille. C'est un moment très particulier.
Le moment le plus touchant, c'est quand j'ai vu le corbillard passer les grilles de Buckingham Palace. Je me suis dit qu'elle rentrait à la maison.
Cet après-midi, le cercueil sera transféré à Westminster Hall, où 750 000 personnes sont attendues d'ici à lundi pour rendre un dernier hommage à la reine. Londres, Stéphane Place, Europe 1.
Et les funérailles nationales de la reine auront lieu lundi. 500 dignitaires et de nombreuses têtes couronnées sont attendues dans la capitale britannique.
Retour en France, le gouvernement prépare son projet de budget pour l'an prochain. Le Parlement s'en saisira début octobre. Avant cela, il faut déminer le terrain avec les oppositions. C'est l'objectif des dialogues de Bercy.
Première réunion hier avec les parlementaires de l'opposition. Il s'agit de tâter le terrain et surtout de trouver des compromis sur le futur texte qui sera présenté à l'Assemblée. Un budget 2023 qui table sur une croissance de 1% seulement et une inflation supérieure aux prévisions. Ce sera 4,2% l'an prochain et non plus 3,2%. Et même si l'exécutif n'exclut pas le recours au 49-3, il peut au moins se satisfaire d'une chose, Arthur Delaborde. Tous les groupes ont fait le déplacement.
Oui, du Rassemblement national aux Insoumis, en passant par les Républicains, une cinquantaine de parlementaires se sont retrouvés pour un premier tour de table de 3 heures. Tous ont finalement accepté l'invitation du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
Vous aviez des oppositions qui avaient annoncé qu'elles ne viendraient pas. Elles sont venues. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tomber d'accord sur tout. Il s'agit de dire qu'on peut enrichir le projet de loi qui est en cours d'élaboration à travers les retours, les propositions, les remarques des oppositions, ce qui est inédit dans la Ve République.
Des dialogues de Bercy pas boycottés par les oppositions, contrairement au Conseil national de la refondation, cette méthode a au moins le mérite de ne pas court-circuiter le Parlement, selon la députée LR Véronique Louwagie.
Là, nous sommes dans un cadre avec un point qui a été évoqué, qu'en aucun cas, ça ne vienne perturber les prérogatives et les missions des commissions des finances.
Les représentants du Rassemblement national et de la NUPES se montrent très sceptiques sur la réelle volonté du gouvernement de faire des compromis. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, n'est pas certain de participer aux 3 autres rencontres.
Ça ressemble à un coup de communication. On a 4 réunions. Ça fait beaucoup de temps par rapport aux quelques informations utiles que nous avons eu. Le reste, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est surtout pour eux une répétition des débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat par la suite.
Des débats qui se tiendront dans les hémicycles à partir du 10 octobre.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Alors ce projet de budget acte le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, mais les Français vont quand même voir leurs factures gonfler dès l'an prochain.
Oui, un constat, l'exécutif ne peut pas maintenir le bouclier fiscal en l'état, trop cher pour les comptes publics. C'est Elisabeth Borne qui se chargera d'annoncer la mauvaise nouvelle cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Un chiffre circule dans les ministères, celui d'une augmentation autour de 15% des tarifs de l'électricité et du gaz pour les particuliers.
Il est 7h05 sur Europe 1. Venons-en à cette affaire qui éclabousse la mairie mairie de Saint-Étienne. Le maire est accusé de chantage à la sextape sur son premier adjoint.
Gaël Perdriau l'aurait menacé de diffuser une vidéo tournée à son insu en 2014. Ce jour-là, Gilles Artigue avait donné rendez-vous à un escort boy dans un hôtel. Un piège tendu par le maire qui a été placé en garde à vue hier avant de ressortir libre sans mise en examen. Mais dans les rues de Saint-Étienne, l'idée que les Stéphanois se faisaient de Gaël Perdriau a beaucoup changé. Reportage Jean-Luc Bougeon.
Gaël Perdriau et Saint-Étienne, c'était depuis 2014 une histoire quasiment sans nuages. Mais depuis quelques jours, les habitants jugent très sévèrement leur maire à l'image de Claude.
Ça fait complètement tâche, oui. Je sais pas, c'est des méthodes de mafia, non ? On a l'impression. On fait pas des choses pareilles, quoi. Ils font ça parce qu'ils se pensent au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde.
Dominique, elle non plus, n'est pas tendre avec Gaël Perdriau.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Qu'il soit pas au courant, moi j'y crois pas. C'est la politique actuelle, ça ? Ça fait peur, hein, quand même.
L'élu peut toutefois encore compter sur certains soutiens chez les habitants.
Je pense qu'il y a une machination derrière ça, une manœuvre politique, comme il y a souvent. Il a fait beaucoup de bien à la ville de Saint-Étienne. C'est pour ça que c'est vraiment étonnant de voir des choses comme ça apparaître.
En garde à vue, le maire de Saint-Étienne a répété qu'il n'avait exercé aucun chantage, ce qui n'empêche pas le chef de file de l'opposition municipale, le socialiste Pierrick Courbon, de réclamer son départ.
Sur le plan moral, comment peut-on avoir un maire qui, de toute évidence, a menti aux Stéphanois depuis le premier jour ? Donc c'est pour ça que nous demandons sa mise en retrait immédiate de toutes ses responsabilités.
Un constat partagé au sein même de son parti, les Républicains, qui juge Gaël Perdriau indigne de sa fonction et a enclenché contre lui une procédure d'exclusion. Saint-Étienne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
À la une nouvelle nuit, a lutté contre le feu dans le Médoc. L'incendie qui ravage les environs de Lacanau a détruit plus de 3000 hectares. Près de 900 personnes ont dû être évacuées. La préfecture annonce un renforcement des effectifs de sapeurs-pompiers qui va passer à environ 940 hommes.
Enfin, une réforme très délicate, mais Emmanuel Macron veut en faire l'un des marqueurs de son second mandat. Le chef de l'État rouvre le débat sur la fin de vie.
Après l'avis favorable du comité d'éthique, Emmanuel Macron veut accélérer sur cette question. À quel moment doit-on interrompre les souffrances d'une personne condamnée par la maladie ? Qui peut en décider ? Le chef de l'État annonce l'ouverture d'une consultation citoyenne. La loi Leonetti encadre déjà la fin de vie. L'objectif, eh bien, c'est d'aller plus loin. Yasmine Akatou, qu'est-ce qui change concrètement ?
Eh bien, dans son avis, le Comité consultatif national d'éthique se dit ouvert à une aide active à mourir pour les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. L'euthanasie ou le suicide assisté pourraient être autorisés, deux pratiques interdites en France. Aujourd'hui, la loi repose sur l'accompagnement d'un malade dont le pronostic vital est engagé à court terme, jusqu'à sa mort, grâce à une sédation profonde. En clair, les traitements sont arrêtés, le patient est endormi et des antidouleurs lui sont administrées jusqu'à la fin. L'avis du comité tranche sur le plan éthique selon Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française des soins palliatifs.
Dans un cas, l'objectif c'est de soulager et dans l'autre c'est de faire mourir. Donc la différence, elle est là. La question qui va se poser pour notre société, c'est la question des gens qui veulent mourir. Des personnes qui sont toujours atteintes d'une maladie grave et incurable et qui pourraient décider d'anticiper leur mort. C'est qui fait la différence avec la loi actuelle.
Dans son avis, le comité recommande de laisser le choix aux professionnels de santé. S'ils refusent la demande d'aide à mourir d'un malade, ils seront dans l'obligation d'orienter le patient vers un autre médecin.
Yasmina Katou.
Et on en parle dans un instant avec Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale. Un mot de football avant cela. Le football, l'Olympique de Marseille, il s'incline une nouvelle fois en Ligue des Champions.
Hein. Défaite 1-0 hier soir face à Francfort, deuxième défaite en deux journées de Ligue des Champions. Bien sûr, un match qui a été une fois de plus émaillé de nombreux incidents. La suite de la Ligue des Champions ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Match à suivre à 21h en direct dans Europe 1 Sport, bien sûr.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Dans un instant, restez avec nous, je vous le disais, Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale, est avec nous. Quel est le périmètre éthique ? Les questions à avoir en tête à propos de ce débat sur la fin de vie, on va voir ça avec lui.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Pourra-t-on bientôt en France abréger sa vie quand on souffre trop ou que l'on redoute une fin douloureuse ? Le Comité consultatif national d'éthique a rendu hier un nouvel avis sur la fin de vie. Il est plutôt favorable à une assistance au suicide de manière encadrée. Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay. Vous avez beaucoup écrit sur la fin de vie. Je vais citer deux de vos ouvrages. Faut-il autoriser l'euthanasie, paru chez First, et un livre également sur Vincent Lambert, une mort exemplaire, point d'interrogation. Vous posez la question, c'est aux éditions du Cerf. Beaucoup de questions parce que ce sujet touche à l'intime, à notre rapport à la mort et peut-être plus encore à la souffrance. Peut-être pour commencer, afin de clarifier les termes, on parle d'assistance au suicide et non d'euthanasie. Quelle est la différence, Emmanuel Hirsch ?
Là, c'est d'aide active à mourir. Donc il ne faut pas qu'on soit dans la périphrase. Il s'agit d'euthanasie. qui est distinct d'ailleurs du suicide médicalement assisté, c'est-à-dire un médecin serait amené à injecter un produit qui aurait pour conséquence la mort de la personne.
Ça, c'est l'euthanasie.
Ça, c'est l'acte euthanasique. Alors, lorsque vous regardez les différentes législations, puisqu'on en est à notre cinquième législation, on a été, avec la loi Leonetti de 2005, pour une option déjà très importante, c'est pour éviter la souffrance, on donne à la personne un certain nombre de produits qui peuvent abréger son existence, mais sans l'intention de donner la mort. C'est toute la distinction entre le faire mourir et le laisser mourir.
Ouais.
Donc depuis 1978, hein, c'était à l'époque le sénateur Cayavé, Henri Cayavé, qui avait lancé d'ailleurs l'association pour le droit de mourir dans la dignité, certaines personnes estiment que certaines conditions de vie, notamment médicalisées, hein, c'est toute la mort médicalisée dont il est question, ne sont pas compatibles avec leur valeur de dignité. Et donc, quel est le bon modèle, en quelque sorte, si un modèle peut être considéré comme bon? Et c'est vrai qu'on est dans un environnement qui avait été... Il y a eu beaucoup de rapports intéressants, dont le rapport Sicard en 2012, sur le mal mourir. Mais quand il était pensé solidairement la fin de vie.
Vous avez raison, mais alors, actuellement, on est sous le régime de la loi Claeys-Leonetti de 2016. Ça suppose, si le Comité national d'éthique suggère une évolution, que cette loi, aujourd'hui, ne suffit plus. Je rappelle que c'est le texte qui permet la sédation profonde, l'injection d'un produit où en fait on attend que votre corps meure de sa belle mort, mais aidé d'une certaine manière, avec toujours cet interdit de tuer.
Tout à fait.
Voilà, c'est la limite du texte actuellement qui pourrait être franchi.
Dimitri est important. Rappelez-vous que François Hollande avait souhaité le 17 juillet 2012 lancer une concertation nationale sur la fin de vie, qui a eu d'ailleurs lieu avec une convention, on en pourra en parler, qui avait abouti en 2013. Et c'est vrai que la question importante, c'est qu'il y a eu la manif pour tous, rappelez-vous, 2013, il y a eu l'affaire Lambert, et le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de la proposition que faisait François Hollande d'aller vers l'euthanasie, c'est-à-dire l'existence médicalisée en fin de vie. On a trouvé, disent-ils, un compromis, qui est pour moi une compromission, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour M. Vincent Lambert, elle a duré 9 jours. Est-ce que c'est compatible avec des valeurs de dignité? Quel est le sens de cette sédation profonde et continue jusqu'au décès?
Pourquoi vous dites compromission?
Compromission parce que l'option de François Hollande, au tout départ, et c'était dans son programme électoral, c'était ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire l'assistance active médicalisée à la fin de vie, qui d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui d'une proposition de loi dont l'article 1 a été voté, rappelez-vous, en avril 2021.
Oui.
Donc on sait ce que va être la loi. Toutes les choses sont définies. La vraie question, c'est que plutôt que de mettre le mot euthanasie, être très clair sur cette assistance médicalisée, on a été dans l'euphémisme sur cette sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Oui.
Et rappelez-vous, à l'époque, la ministre de la Santé, Maricelle Touraine, disait que c'est une loi transitoire. On savait que c'est une loi qui ne tiendrait pas la route. À l'époque, j'avais même écrit un article dans Le Monde pour dire à quel point, parce que c'était dans la littérature, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est purement et simplement l'euthanasie.
Mais justement, je vous lis, vous dites, ça y est, l'euthanasie sera légalisée. Vous n'avez aucun doute sur...
Non, mais il n'y a aucun doute, parce qu'il n'y a aucun doute à avoir. Ce qui me frappe, et j'y réfléchissais, rappelez-vous, quand il y a eu les révisions de lois de bioéthique, le Conseil d'État, notamment comme autre instance, alors que la fin de vie n'est pas dans les lois de bioéthique, a fait un superbe rapport. Et dans son rapport, j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices d'Europe 1 à regarder ce rapport. C'est du 28 juin 2013, enfin, peu importe la date. Non, pas 2013, excusez-moi, 2018. Et dans ce rapport, le Conseil d'État est contre l'euthanasie, c'est-à-dire contre cette évolution.
Oui.
Il est pour les soins palliatifs, pour l'accompagnement de la personne dans sa demande, notamment dans les directives anticipées qui aujourd'hui sont opposables.
Oui.
Il évoque la sédation profonde et continue, j'allais dire, d'une certaine manière.
Oui.
Mais vous n'avez aucune instance, j'allais dire, qui avec rigueur a observé d'un point de vue législatif ces évolutions, qui est favorable à l'euthanasie. Pourquoi c'est irrévocable? Parce que le CCNE, et c'est quelque chose qui, pour moi, m'interroge, vous qui vous intéressez, Dimitri, aux questions d'éthique, c'est quelque chose qui m'interroge profondément. Il y a 9 ans, le CCNE s'est prononcé sur cette question avec les mêmes argumentaires qu'il développe hier. Pour arriver à la conclusion, il ne faut surtout pas d'euthanasie.
Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'était ma prochaine question.
C'est une question, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une affaire politique, pour ne pas dire politicienne. Alors, je ne mets pas en cause les membres du CCNE. D'ailleurs, dans le rapport du CCNE, à la fin du rapport, il y a un certain nombre de membres du CCNE qui sont absolument contre cette évolution.
Huit,
je pense qu'on n'attendait pas du CCNE, surtout lorsqu'on nous annonce une concertation nationale qui se prononce a priori. Il aurait été peut-être plus intéressant qu'il donne son point de vue après la concertation, puisque le CCNE s'est exprimé. Vous avez une proposition de loi qui a été votée en avril 2021.
Oui.
Donc, je n'ai pas compris le côté assez démagogique de dire on va faire une consultation nationale. Puis il y avait, je voulais évoquer, une convention citoyenne qui avait été déjà organisée
raison,
et qui avait abouti finalement à être favorable à l'euthanasie. Donc Emmanuel, c'est une affaire qui est jouée.
Emmanuel Hirsch, si on prend un petit peu, si on élargit le sujet, on voit que depuis 70 ans, l'espérance de vie ne cesse de progresser. Elle dépasse 80 ans pour les hommes et les femmes aujourd'hui. Mais on voit que la société a finalement assez mal préparé cette dernière étape de la vie, qui parfois c'est 10, 20 ans de dépendance, de souffrance aussi également. Et on a un peu l'impression que c'est un peu le cache-sexe, ce texte qui se veut un progrès, avec cette idée que comme on a mal préparé la fin de l'accompagnement de la fin de la vie, eh bien peut-être qu'il faut aller vers cette idée d'une assistance au suicide.
Le paradoxe, si vous voulez, c'est une manière philosophique qu'on veut tout maîtriser. Alors vous regardez comment l'État aujourd'hui, comment le gouvernement maîtrise. On est dans un contexte, on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec les difficultés auxquelles on est confronté. On peut s'imaginer qu'il y a d'autres ambitions et d'autres urgences que de vouloir maîtriser la mort à travers une législation. Donc que les gens aujourd'hui, chacun d'entre nous, on va être confronté demain à ces questions pour soi un autre, avec toutes les questions qu'on se pose, aient envie de ne pas souffrir, c'est une chose importante. Que cette solidarité sociale s'exprime par le don de la mort à travers un acte médical, ça pose une deuxième question. Et une troisième question déontologique, est-ce que c'est la fonction du médecin, selon des critères à apprécier, de répondre à une demande, y compris de personnes qui ne sont pas en fin de vie.
Oui.
Puisque dans la loi, c'est personnes en fin de vie ou personnes malades qui considèrent que leur souffrance est devenue insupportable. Donc ça pose vraiment les questions des solidarités. On a parlé pendant la pandémie des EHPAD, des situations d'exclusion sociale. Je pense que nos premières réponses, c'est en termes de solidarité, de sollicitude. Et quelle image on donne aujourd'hui aux personnes très très malades ou aux personnes qui sont dans le grand âge et qui se posent des questions existentielles en disant qu'on va légiférer sur l'euthanasie? Est-ce que c'est notre priorité? Est-ce que c'est les valeurs de la démocratie au moment où on doit se rassembler? Donc pour moi, l'avis du CCNE est un avis intéressant, mais c'est un copie-copier d'un précédent avis. Et j'attendais du CCNE qui pose des questions, certainement pas qui se prononce d'une manière comme ça résolue, avant même qu'il y ait concertation nationale.
Merci Emmanuel Hirsch. Je renvoie à la lecture de certains de vos ouvrages, notamment « Faut-il autoriser l'euthanasie ?» où vous creusez ce débat, c'est paru chez First. Je donne aussi ce sondage IFOP qui date d'avril dernier. 94% des Français sont favorables au recours à l'euthanasie. On en reparlera tout à l'heure à 8h40. Merci Emmanuel Hirsch.
Merci de votre invitation.
7h21.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Hein, on reparle beaucoup de la réforme des retraites ces derniers jours. Hein.
Oui, alors une France sans dispute sur les retraites ne serait pas la France. Hein. L'idée de l'Élysée cette fois-ci, c'est d'intégrer une mesure paramétrique, donc sur l'âge légal ou sur la durée de cotisation, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, parce que comme vous le savez Dimitri, en cas d'absence de ratification au Parlement, le 49.3 peut s'appliquer hein, pour le budget de l'État et pour le budget de la Sécurité sociale. Ça pose une question de méthode, hein, parce que intégrer la réforme des retraites au dernier moment dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne serait pas très respectueux des partenaires sociaux, ce qui est quand même un sujet, parce qu'on ne peut pas durablement faire des réformes sociales dans notre pays sans les acteurs sociaux. Cela risque de fâcher la CFDT, qui est quand même le seul syndicat avec lequel on peut encore faire bouger des choses en France.
Alors Nicolas, François Ruffin de la France Insoumise, hein, il a lu le récent rapport du COR, là. Il déclare, François Ruffin, que le système des retraites est équilibré et que la réforme, en fait, vise à faire des cadeaux aux riches.
Écoutez, François Ruffin a raison sur un point, hein. Vous noterez d'ailleurs ma mansuétude. Selon le Conseil d'orientation des retraites, notre système de retraite a été fortement excédentaire en 2021, c'est vrai, avec un excédent de l'ordre de 900 millions d'euros, c'est pas rien. Et en 2022, grâce aux créations d'emplois qui sont très fortes hein, et qui génèrent beaucoup de cotisations salariales et patronales, notre système de retraite sera excédentaire de plus de 3 milliards d'euros. Malheureusement, mais François Ruffin n'a peut-être pas eu le temps de lire l'ensemble du rapport, les retraites redeviendront fortement déficitaires à partir de 2023 pour des raisons démographiques. Il n'y a pas péril en la demeure, si vous voulez, Dimitri. Nos retraites ne sont pas au bord de la faillite, mais il y a quand même bien un sujet d'équilibre financier qu'il faut régler.
Donc vous pensez qu'il faut faire la réforme, ne serait-ce que pour nos finances publiques?
Oui, mais le sujet va au-delà de la question strictement financière. Il faut surtout faire cette réforme car on doit travailler collectivement plus pour générer davantage de croissance. Il ne faut jamais oublier que c'est le travail qui rend le modèle social français soutenable. Ceci dit, pour que tout ça fonctionne, il faut augmenter l'emploi des seniors, qui est scandaleusement bas en France. Un peu plus de 55% pour les 55-64 ans, seulement 33% Dimitri pour les 60-64 ans, et alors au-delà de 65 ans, quasiment plus personne ne travaille. Ça, c'est un vrai sujet pour les partenaires sociaux, parce que là, il y a un échec des entreprises qui font la promotion de la réforme des retraites pour éviter des hausses de cotisations, mais qui ne travaillent pas sérieusement sur cette question de l'emploi des seniors. Sur ce sujet, les entreprises veulent le beurre et l'argent du beurre.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23 sur Europe 1.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
7h24, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Le bouclier tarifaire sur l'énergie prolongé mais modifié l'année prochaine. Nos factures vont augmenter de 15% en moyenne. Le dispositif doit être présenté cet après-midi par Elisabeth Borne. Le cinéaste Jean-Luc Godard, décédé hier à l'âge de 91 ans, a eu recours à l'assistance au suicide en Suisse. Au moment où le comité d'éthique annonçait y être favorable, une convention citoyenne est donc lancée. Au Royaume-Uni, le cercueil d'Elisabeth II doit être transféré aujourd'hui à Westminster, où les Anglais pourront se recueillir jusqu'à lundi matin. Et puis 17 interpellations, un blessé en marge du match OM Francfort en Ligue des Champions. Résultat 1-0 pour les Allemands à suivre ce soir dans Europe 1 Sport, Maccabi Haïfa PSG à 21h.
Cet adversaire, allô, c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
1930-2022, le cinéaste Jean-Luc Godard est décédé hier à l'âge de 91 ans. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Ah, Godard, initial JLG, père de la nouvelle vague, les archives d'Europe 1 depuis les années 60 révèlent à quel point il voulait faire un cinéma différent, et ce, dès le début de sa carrière.
Oui, Godard utilise le cinéma comme révolte, comme provocation. Il se voit comme un chercheur, il se fiche du succès, il n'est pas là pour plaire.
La provocation pour Jean-Luc Godard, c'est quoi alors ?
Créer une onde de choc. Quand quelqu'un dort, forcément, l'onde de choc est plus grande que quand il est réveillé. Mais provoquer ne veut pas dire bousculer, ça veut dire inaugurer, inventer.
Cet entretien sur Europe 1 date de 1967. À l'époque, il a déjà créé trois de ses grands films, À bout de souffle, Le mépris et Pierrot le fou. Trois ans plus tard, en 70, Godard montre une autre forme de militantisme en vendant dans la rue, avec l'écrivain Jean-Paul Sartre, le journal La cause du peuple, le journal maoïste créé en 68 et qui vient d'être interdit.
Demandez la cause du peuple! Demandez la cause du peuple!
Nous avons été à l'imprimerie, nous avons pris 3000 exemplaires qui ont été donnés là-haut. Maintenant, ils vont être vendus tout à fait normalement.
En temps normal, qu'est-ce qui se passe?
En temps normal, ils y sont saisis dès le départ, c'est-à-dire dans l'imprimerie même.
C'est Jean-Paul Sartre qu'on entend ici. Godard, lui, a déjà le regard caché par des lunettes noires, souvent un cigare aux lèvres. Et on l'entend aussi déjà ici, cette manière unique d'articuler les mots.
Alors, dans les années 70, Jean-Luc Godard fait jusqu'à 2 films par an. C'est la période où sa voix porte le plus.
Oui, et toujours avec cette même ligne de conduite, ne pas faire les mêmes films que les autres.
Je pense qu'on doit faire des films différents des 99% des films qui se font.
Et pourtant, vos films marchent, alors qu'ils sont totalement différents.
Ils marchent difficilement et pas si facilement que ça, quelquefois, oui.
Il a compris sans doute avant beaucoup d'autres la force de l'image aussi. Voilà ce qu'il dit en 2010 à propos de l'image.
À des moments de laisser l'image, si on peut dire muette, mais d'entendre ce qu'elle dit, on peut faire entendre du temps et on peut mettre du relief. On peut mettre de la troisième dimension entre le son et l'image. Il n'y a pas besoin de truquer.
Jean-Luc Godard reste un provocateur génial pour certains et un intello incompréhensible pour d'autres.
Ouais, on réentendra Godard tout à l'heure avec Laurie Choleva. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Allez, à suivre dans Europe Matin aussi. D'ailleurs, le livre du jour, choisi par Nicolas Carreau. Tiens, c'est l'un des événements de la rentrée littéraire. Ça s'appelle Taormine, signé Yves Ravet. Rendez-vous dans un peu moins de 20 minutes.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
Et Londres va dire adieu à sa reine aujourd'hui. Le cercueil d'Elisabeth II est arrivé dans la capitale britannique où il sera exposé au public dès cet après-midi. Dans un instant, des Britanniques nous racontent leurs souvenirs avec la reine. Une mauvaise nouvelle si vous êtes propriétaire, la flambée, outre celle de l'énergie, de la taxe foncière. Une ville est championne de France, reportage à suivre. Et puis on va retenir son souffle à la fin de ce journal avec un film, Le Grand Bleu. Le compositeur de la bande originale, Eric Serra, démarre une tournée de ciné-concert.
Europe 1.
Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Après 70 ans de règne, la dernière nuit de la reine à Buckingham Palace. Le cercueil d'Elisabeth II, accueilli hier soir par les applaudissements de la foule réunie devant le palais de la famille royale. Londres, destination finale après 3 jours à travers le pays.
Et oui, une nation où voyage aussi notre reporter Nina Droff à la rencontre des Britanniques.
Mais des habitants qui ont tous ou presque un souvenir avec la reine. C'est le cas de ces promeneurs rencontrés sur une plage de l'est de l'Angleterre, l'une des préférées de la reine.
Assis sur les marches d'une des bicoques colorées qui bordent le rivage, Barbara et Tom contemplent la plaine de sable ondulée qui s'étend à perte de vue. Tellement que les personnes à l'autre bout ne sont que des petits points noirs perdus dans l'immensité de la plage. Le couple se rappelle très bien du jour où une de ces lointaines silhouettes s'est avérée être la reine d'Angleterre.
Je l'ai vue une fois sur la plage en train de promener ses corgis. Elle m'a juste souri et salué de la main. Elle avait l'air tellement simple. Bien sûr, j'avais reconnu la reine, mais elle avait juste l'air d'une personne normale.
C'était très surprenant parce que d'habitude, on ne voit que son côté formel. C'était assez incroyable.
Les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, Liz et Anna profitent des derniers rayons du soleil avec une petite pensée pour la reine Elisabeth qui appréciait cet endroit autant qu'elle.
Elle était toujours très détendue à Norfolk. C'était sa retraite d'été. Elle adorait marcher et être avec ses chiens. Ça devait être merveilleux d'être elle-même.
Il y a des kilomètres de sable, de l'espace pour les gens. On ne croise pas beaucoup de personnes, comme ça elle pouvait se libérer des autres.
La rumeur raconte même que la reine avait sa propre entrée cachée sur la plage pour éviter la foule. Holcam, Nina Droff, Europe 1.
Le cercueil de la reine doit quitter Buckingham Palace en début d'après-midi, le début d'une procession solennelle dans les rues de Londres.
Et oui, terminus, Westminster Hall, là où le cercueil sera exposé au public à partir de 16h et jusqu'à l'aube des funérailles prévues lundi prochain.
5 jours pour permettre à des centaines de milliers de Britanniques de se recueillir, du moins ceux qui pourront. 8 kilomètres de queue et 35 heures d'attente d'après les autorités. Anaïs Cordoba, que pourront voir les privilégiés ?
Eh bien, le cercueil va être exposé sur une estrade au milieu de l'immense et majestueux Westminster Hall. De style gothique, construit au XIe siècle sous le règne du fils de Guillaume le Conquérant, c'est le bâtiment le plus chargé d'histoire du Royaume-Uni. Il a servi au banquet de couronnement. Les cercueils de plusieurs rois y ont été exposés avant leurs funérailles, ainsi que celui de Winston Churchill, l'un des 2 premiers ministres britanniques à avoir reçu cet honneur. Le cercueil d'Elisabeth II, lui, sera recouvert de l'étendard royal, ainsi que de l'orbe et du sceptre, les 2 symboles du monarque. Des gardes d'unité d'élite de la reine se tiendront aux 4 coins de l'estrade en permanence et le public pourra venir se recueillir 24 heures sur 24 jusqu'à lundi matin, quand le cercueil sera emmené à l'abbaye de Westminster pour les funérailles.
Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1.
7h34, vous en voulez une certitude ? Vous allez payer plus cher, des hausses sur votre facture d'énergie qui vont être annoncées aujourd'hui.
Et oui, jusqu'à 15% en moyenne, l'équivalent de 140 euros en plus par an pour l'électricité d'un foyer. Elisabeth Borne doit présenter le bouclier tarifaire pour l'année prochaine avec une équation : limiter la flambée des prix sans plomber le budget de l'État. Côté inflation, Bercy revoit d'ailleurs ses prévisions à la hausse, plus 4,2% pour 2023.
Oui, prévision de croissance à la baisse à seulement 1% pour cette année, pour l'an prochain. Pas de quoi arranger. Donc en tout cas, la santé de vos finances personnelles, cette équation énergétique. Tiens, une autre mauvaise nouvelle si vous êtes propriétaire cette fois.
Oui, en 2 mots, douloureux, taxe, foncière, elle est sûrement déjà arrivée dans votre boîte à lettres et la facture a augmenté dans la plupart des villes. La championne de France, c'est Tours où s'est rendu Johan Tritz pour Europe 1.
Mais oui, mais je l'ai reçu ma taxe foncière. Et j'étais surprise par le montant.
Geneviève, habitante de Tours depuis 30 ans, n'est pas la seule à l'avoir remarqué. Teddy, lui aussi propriétaire d'un 2 pièces dans la ville, en a fait le constat amer cette année en ouvrant son courrier.
Ma taxe foncière 2022 s'élève à 1066 euros. Et en 2021, on était aux alentours de 980 euros. Donc ce sont des choix politiques qui sont portés par la mairie de Tours.
Une augmentation de presque 100 euros que tente de justifier l'adjoint aux finances de la ville, Frédéric Mignot.
Cet effort, il est là aussi pour servir les habitants. Si cette personne-là qui paye sa taxe foncière a des enfants, elle sera bien contente qu'ils soient dans les écoles dans lesquelles ils puissent bénéficier des infrastructures de la ville. Le but, c'est vraiment d'offrir un service public plus fort pour l'ensemble des Tourangeaux et des Tourangelles.
Si elle irrite certains propriétaires, cette hausse n'a pour l'instant pas de répercussions sur le marché de l'immobilier, constate Théophile Daniel, directeur d'une agence dans le centre de Tours.
Tous les Tourangeaux aujourd'hui nous parlent de l'augmentation de la taxe foncière. De là à dire que ça va freiner les ventes, non, parce qu'on reste sur des montants qui, par rapport au prix d'acquisition, restent largement inférieurs.
Des futurs acquéreurs qui savent qu'elle augmente aussi dans les autres villes françaises, plus 2% en moyenne sur tout le territoire en 2022.
Le reportage de Johan Tritz à Tours pour Europe 1. En Gironde, la progression des flammes ralentit. Ce matin, 900 pompiers seront mobilisés à Somos où des renforts doivent arriver d'autres régions de France. Depuis lundi, près de 3500 hectares sont partis en fumée.
800 personnes évacuées par ailleurs. 7h36, ils font partie des héros de ce 14 juillet 2016. Deux témoignages poignants hier au procès de l'attentat de Nice.
Deuxième semaine d'audience et à la barre, Alexandre et Franck. Ce soir d'été, les deux hommes ont tenté d'arrêter le camion du terroriste. L'un à vélo, l'autre en scooter. Le récit de Frédéric Michel.
Je voulais rentrer chez moi et j'ai croisé le camion fou. J'ai bien vu que le conducteur voulait écraser le maximum de personnes. Il était déterminé, j'ai couru après et je l'ai insulté. Tout en émotion, Alexandre raconte ces secondes qui ont bouleversé sa vie à jamais et tant d'autres. Il parle des victimes pour qui il attend la vérité et explique. Quand il a ralenti, descendant le trottoir de la promenade pour revenir sur la chaussée, j'ai essayé d'ouvrir sa porte et il m'a braqué avec son arme. Il était super concentré, il avait les yeux grands ouverts comme un drogué. Tout en pudeur, Alexandre pose les mots. Il a réussi à faire mal à beaucoup de gens. C'est un impact sur toute une vie. Mon mariage n'a pas résisté. J'ai fait des crises d'angoisse. Son avocate l'interpelle. De quoi avez-vous peur? Qu'on m'attaque dans la rue? Je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Franck Terrier a lui jeté son scooter sous les roues du camion avant de monter sur le marchepied et d'échanger des coups violents avec le terroriste qui tentait de lui tirer dessus avec son pistolet. Le camion s'est arrêté. La fusillade avec les policiers a commencé. Son avocate, maître Mélissa Merceret.
Monsieur Terrier a eu ce sentiment que c'était une attaque terroriste et qu'il fallait agir. Alexandre également. C'est vrai qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir l'arrêter dans sa course folle et funèbre. On voit bien quel est l'axe de la défense, c'est d'essayer de faire croire que c'était un loup solitaire, alors que pas du tout.
Pour eux, pas de doute, c'était bien l'acte d'un terroriste.
Le récit de Frédéric Michel. 7h38 sur Europe 1, Elisabeth II, Charles III, on en parlait au début du journal. Vous l'ignorez sûrement, mais en plus d'être souverain du Royaume-Uni, il est aussi, tenez-vous bien, le roi des dauphins et des baleines qui nage dans les eaux britanniques. Oui,
vrai.
Oui, je vous assure, c'est très sérieux. Ça fait partie des privilèges insolites et ça me permet de vous parler d'un film culte, Le Grand Bleu.
Voilà, le film culte de Luc Besson et la musique aussi, la bande originale française la plus vendue dans le monde, signée Éric Serra.
Oui, le compositeur démarre aujourd'hui une tournée de ciné-concert dans les Zéniths de France et ce soir, ça commence à Nantes.
Éric Serra qui revient d'un cancer.
Exactement, qui est en rémission de son cancer.
Et qui est ravi de pouvoir retrouver son public. Besson, Serra, ces deux-là.
Il y a la BO
de Subway, etc. Oh bah tiens, quelle douceur. Merci beaucoup Romane, ça fait plaisir. Tiens, vous voulez un peu de rêve aussi?
Allez.
Tiens, c'est la patronne de SpaceX, Gwyn Shotwell. Elle parle ce matin dans les colonnes du Point. Elle nous annonce qu'on ira sur Mars dans moins de 10 ans. Et elle nous parle de la nouvelle fusée Starship qui nous permettra d'aller d'un point à l'autre du globe en 45 minutes maximum, et ce, dans moins de 5 ans. Bon, je vous dis pas, on avait des polémiques
moins
sur les
jets. Moins qu'un trajet de métro.
Moi, sur les jets privés, alors la fusée Starship, là, je vous dis pas. Merci beaucoup, Roman. Ok, on vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, l'édito international en Suède, l'alliance droite classique, droite populiste aura-t-elle raison de la social-démocratie? Bon, en fait, ça fait 30 ans que cette bataille politique a lieu en Europe. Le récit de Vincent Hervouet à suivre.
7h, 9h,
Europe Matin.
7h42, l'essentiel de l'actualité. Alban Le Prince.
Les prix de l'énergie vont augmenter plus 15% en moyenne car l'État ne pourra pas tout prendre en charge en 2023. C'est ce que doit annoncer Elisabeth Borne, la Première Ministre, cet après-midi dans le cadre d'une conférence de presse. Le comité d'éthique a rendu un avis favorable sur l'aide active à mourir ou ce qu'on appelle plus souvent le suicide assisté. Conséquence, une consultation citoyenne sur le sujet est lancée. Et puis choc et incompréhension en Normandie. Une enseignante a été poignardée hier au lycée Malherbe de Caen par un élève de seconde. Il a été interpellé en déplacement en Vendée. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a indiqué qu'il se rendrait sur place le plus vite possible.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire?
Eh oui, elle sait pas quoi faire, Anna Karina dans Pierrot le Fou, Godard.
Quelle scène.
1965, voilà. Très bon client de la Société du Spectacle de l'époque, Godard. Bah, qu'est-ce qu'il peut faire, Nicolas Caro, ce matin? Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Il va nous parler du livre du jour, c'est quoi ce matin?
Il peut vous parler d'un polar tranquille, j'appelle ça comme ça.
Un polar tranquille.
À la Simenon.
Il y a un mort au moins, rassurez-moi.
Sans doute.
Et Laurie Choleva pour les sorties ciné, bah tiens, ça tombe bien de vous avoir ce matin, Laurie.
Oui, c'est vrai. Heureuse quoi.
coïncidence, enfin, malheureuse coïncidence plutôt. Ouais. À vendredi, Robinson, c'est le dernier film de Godard.
Et ça sort aujourd'hui.
Et ça sort aujourd'hui, c'est fou. Hein.
L'aurait-il fait exprès? Peut-être. En tout cas, avant cela, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri.
Vous avez l'air dubitatif quand on parle de Godard. Vous n'aimez pas spécialement, j'ai l'impression.
Mais si, tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. C'est un peu la rengaine de la politique étrangère.
C'est tous les soirs ce que vous vous dites. De quoi je vais parler demain? Résultat, dans la journée, là, ce mercredi, des élections de dimanche en Suède. Hein, la droite et la gauche sont au coude à coude. Les sociodémocrates restent le premier parti du pays, mais l'extrême droite est la deuxième et pourrait gouverner aux côtés de la droite modérée, Vincent.
Oui, on a envie de dire aux Suédois, bienvenue en Europe, parce que l'union de la droite radicale avec les conservateurs, avec le tocsin qui sonne alentour et les médias qui crient au loup, c'est une rengaine qui a près de 30 ans. Silvio Berlusconi, le premier, a franchi le Rubicon en 1994. Il gouverne avec la Ligue du Nord, puis avec les post-fascistes de Gianfranco Fini. Et il continue puisqu'il fait maintenant alliance avec Fratelli d'Italie, dont les sondages annoncent la victoire dans 10 jours.
Et l'Italie, c'est le laboratoire européen du populisme.
À l'Est, l'Autriche, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie ont tenté la même expérience. Au Nord, la Norvège, la Finlande, le Danemark. En Espagne, Vox a fait la courte échelle aux centristes du Parti populaire dans 4 régions et gouverne avec lui dans une 5e. Bref, dans un tiers des pays européens, la droite classique et la droite radicale se sont entendus pour faire tomber la gauche. On verra en Suède s'ils gouvernent ensemble, s'ils vont s'entendre sur un programme ou s'il y aura seulement soutien sans participation.
Alors ça prend un relief particulier cette affaire, Vincent, parce que la Suède, bah, c'est la vitrine de la social-démocratie.
Hein. Sa terre promise, elle y a régné 80 ans au total depuis un siècle, 30 ans sur les 40 dernières années. C'est un modèle, une incarnation du bien, une superpuissance morale. On imagine mal que l'Europe mette en quarantaine les Suédois, comme elle l'avait fait en l'an 2000 avec les Autrichiens. Et ce sera d'autant plus difficile que la Suède prendra dans 3 mois la présidence du Conseil européen.
Mais alors comment expliquer, Vincent, que les démocrates de Suède aient ainsi réussi à se hisser au premier rang de la droite suédoise?
Un leader qui ressemble à ses électeurs, qui fait des barbecues le dimanche, un programme qui répond aux aspirations concrètes des classes populaires et une campagne à l'estomac sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette photo d'une rame de métro repeinte aux couleurs nationales et en légende. Bienvenue pour le voyage de retour à l'est simple. Prochain arrêt, Kaboul. Ça aurait peut-être plu à Jean-Luc Godard, cette image. Les démocrates de Suède sont entrés au Parlement en 2010 et depuis, ils gagnent du terrain. Ce qui les a imposés, c'est l'arrivée en masse des réfugiés en 2015. 250 000 migrants, dont des milliers de mineurs isolés que le pays est incapable d'intégrer. 7 ans après, 7 ans de malheur. La Suède est champion d'Europe pour le nombre de morts par balle, juste après la Croatie. Des mafias tiennent des quartiers entiers sur leur férule. Les règlements de compte sont quotidiens. L'islam conquérant aligne ses burkas. C'est Back Nord, tout au nord de l'Europe. La première ministre social-démocrate le reconnaît. Trop d'immigration, trop peu d'intégration ont créé des sociétés parallèles où les gangs ont pris racine. La démographie joue contre les Suédois. Le nombre de personnes d'origine étrangère a doublé en 20 ans. Et ils sont désormais 2 millions face à 10 millions Suédois. La gauche comme la droite promet de stopper l'immigration et de liquider les ghettos comme au Danemark. Sauf que les Danois ont les mains libres pour leur politique migratoire. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'Europe. Stockholm est sorti du déni. Le défi reste entier.
Merci beaucoup Vincent Hervouette. Résultat de ces élections donc en fin de journée à l'issue du décompte du vote des Suédois de l'étranger. 7h47.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Alors Nicolas Carreau, ce matin, notre page culture s'ouvre avec vous. Vous nous parlez d'un roman sur toutes les listes de prix ce matin.
Visez un peu, il est sur la première sélection du Goncourt, du Renaudot et du Femina. Bon, ça n'en fait pas automatiquement un bon livre, vous allez me dire, mais il se trouve que c'en est un. Il s'agit de Taormine, signé Yves Ravet aux éditions de Minuit.
Taormine, comme la ville sicilienne. Hein.
Exactement. C'est l'histoire de Melville et Louisa, un couple de Français plutôt aisé. Elle est chercheuse au CNRS et lui chercheur aussi, mais à Pôle emploi. Il est cadre, il prend son temps et leur couple bat de l'aile. Alors, ils ont décidé de partir en vacances en Sicile pour sauver ce qu'il y a à sauver. Mais bon, l'ambiance n'est pas dingue dans la voiture. Ils ont réservé un hôtel de luxe à Taormine sur la côte, mais au lieu d'y aller directement avec la voiture de location en sortant de l'avion, ils bifurquent pour plonger tout de suite dans la mer, vous savez. Mais bon, ils connaissent pas le coin, ils échouent sur une sorte de terrain vague. C'est nul, pour résumer. Ils repartent et là, la flotte. Ça commence mal. En plus de ça, à cause de la pluie, de la poussière et tout, Melville percute quelque chose sur la route. Il pleut, ils verront ça plus tard. La voiture redémarre et ils font une pause dans un petit village.
Ah, c'est un récit de vacances
C'est un peu ce que je me suis dit au début. Ouais.
D'autant que Melville et Louisa s'engueulent tout le temps. Melville a vu en sortant que l'aile de la voiture était quand même bien cabossée, ça l'énerve. Est-ce qu'il faut utiliser l'assurance? Est-ce qu'il faut aller directement chez un carrossier? Je vous avoue qu'à un moment, je me suis dit, bon, hé oh, je m'en fiche un peu de vos ennuis de vacances, là. Et puis, ils arrivent à Taormine et le lendemain, ils découvrent dans le journal que quelqu'un est mort.
Ah.
Je ne vous dis pas qui, mais il ou elle a été renversé par une voiture et le chauffard s'est enfui. Vous savez, c'est là-bas, sur la plage, qui ressemble un peu à un terrain vague. Ah, d'accord. Là, d'accord. On s'accroche au roman.
Ouais, il va se dénoncer alors ?
Pensez-vous. Il se demande surtout comment on a pu lui gâcher ses vacances à ce point. Et il se cherche aussi plein d'excuses et il essaye aussi de s'en sortir. Mais pas vraiment un thriller non plus, c'est plus du simenon, du polar tranquille, donc sans effet de style, sans tiroir dans les tiroirs, sans structure compliquée, sophistiquée. Un crime, des coupables, la police, point. Et comment vont-ils s'en tirer, s'ils s'en tirent ? C'est court, 130 pages, efficace, c'est à l'os.
Et ça, ça vaudrait le Goncourt alors ?
Ah bah en tout cas c'est en lice,
c'est
en
marrant,
lice.
Hein, ça nous
et Renaudot et Fémina.
Ça nous en dit long sur l'époque.
Et
hein.
C'est édition de minuit, c'est bien fait et tout, c'est du bel ouvrage.
Est-ce que le couple est sauvé à la fin ?
Ça va pas, Laurie Choleva. Bon, nous on en vient au cinéma. On a appris donc hier la disparition de Jean-Luc Godard, alors que sort aujourd'hui son dernier film.
Et c'est complètement fou. Alors c'est vrai que depuis hier les hommages se succèdent pour saluer la mémoire de Jean-Luc Godard, figure emblématique de la nouvelle vague. On lui doit des chefs-d'œuvre incontournables. Vous en avez beaucoup parlé. On a écouté beaucoup d'extraits depuis hier, un peu partout, d'À bout de souffle au mépris, en passant par Pierrot le fou. Emmanuel Macron a évoqué la perte d'un trésor national. Toutes les stars aussi y sont allées de leur poste. Nicolas
Bedos,
il était suisse, ouais, franco-suisse. Et Nicolas Bedos a sobrement écrit « Il y a tant à dire ». Et alors, ironie du sort, aujourd'hui, effectivement, la dernière apparition de Jean-Luc Godard dans un documentaire de Mitra Farahani qui s'appelle « À vendredi, Robinson ». Ce film, en fait, c'est la réunion de deux monstres sacrés, témoins d'une époque, Godard et le réalisateur iranien Ebrahim Golestan, âgé de 99 ans, cinéaste majeur de la nouvelle vague iranienne, méconnu aujourd'hui. Donc voilà, c'est un documentaire très intéressant qui sort aujourd'hui, c'est quand même
incroyable.
Complètement fou. Godard, si on peut résumer, c'était un cinéaste libre, iconoclaste, provocateur, qui a amené quand même à l'époque une nouvelle façon de faire du cinéma. Et on ne résiste jamais à un extrait d'un film de Godard.
New York Herald Tribune.
Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope.
Qu'est-ce que c'est l'horoscope ?
L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi ?
Moi aussi.
Oh, c'est magnifique.
Gene Seberg.
Oui, exactement. Et Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle.
Bon, dans l'actualité du ciné, autrement, Laurie, est-ce que vous avez un conseil, un bon film qui sort cette semaine ?
Un très bon film, Dimitri. C'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret, celui qui aime tant les mots, celui qui aime tant badiner avec l'amour. Ça s'appelle Chronique d'une liaison passagère. Et il retrouve l'acteur avec lequel il a tourné son précédent film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est Vincent Macaigne, aux côtés de Sandrine Kiberlain. Pour vous résumer ce film, c'est une histoire de fesses qui se transforme en histoire de cœur. Et là, rien n'est simple, forcément.
Enfin, je suis pas très doué pour ça.
C'est quand même toi qui m'as appelé.
Mais enfin, c'est toi qui m'as donné ton numéro de téléphone, hein.
Bah, on s'est quand même un peu embrassé avant que tu quittes la fête, non ? Tu te souviens ? Mais t'étais pas obligé de me rappeler.
Oui, c'est vrai. Enfin, j'en avais très envie.
Ouais, ouais, moi aussi.
Ah, c'est vraiment pour
moi.
Ils sont mignons, ils sont de tous les plans. Et franchement, ils sont extraordinaires. C'est le meilleur film d'Emmanuel Mouret pour moi.
Voilà, ça s'appelle...
Ça s'appelle Chronique d'une liaison
passagère. Parfait. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Il est 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
Le journal permanent Alban Le Prince.
Ils sont déjà des milliers à faire la queue devant Westminster. Le cercueil de la reine Elisabeth II doit y être exposé aujourd'hui au public et jusqu'à lundi matin. Mais il faudra s'armer de patience jusqu'à 20 heures d'attente. La crise de l'énergie au cœur du discours d'Ursula von der Leyen aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg. Elle fera des propositions pour enrayer la flambée des prix et dans le même temps, Elisabeth Borne tiendra une conférence de presse où elle présentera notamment le bouclier tarifaire 2023. Et puis un blessé, 17 interpellations hier en marge de OM Francfort en Ligue des Champions. Marseille s'est incliné 1-0 à domicile. À suivre ce soir dans Europe 1 Sport, Maccabi Haïfa, PSG.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémolet de Villers.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Du Figaro, le président de la République a donc annoncé hier le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie. Et il l'a fait après avoir reçu l'avis favorable du Conseil national d'éthique.
Oui, c'est un sujet d'une extrême gravité, Dimitri, et pourtant il est abordé par nos autorités avec une certaine légèreté. Bon, les apparences sont respectées, hein, mais quand le vernis craque, c'est moins beau à voir. Prenons le Conseil national d'éthique d'abord. Ce conseil a pour président Jean-François Delfraissy. En 2018, c'est lui qui avait dit, j'ouvre les guillemets, « le bien et le mal, je ne sais pas ce que c'est ». Alors pour un spécialiste de l'éthique, ne pas faire de différence entre le bien et le mal, avouez que ça laisse un peu songeur.
Oui. Le même indexe ça sur le progrès technique en fait. Hein.
Mais bon, c'est une notion éthique centrale. Le même Jean-François Delfraissy, tout le monde s'en souvient, était pendant le Covid le président du comité scientifique. C'était sur ces recommandations que le gouvernement, au printemps 2020, a interdit aux familles, pour des raisons sanitaires, d'entourer leurs parents dans leurs derniers jours. Pendant 2 mois, des gens sont morts, sans une présence réconfortante, parfois sans funérailles. Ils ont passé leur fin de vie dans la solitude. Ce choix était une faute grave. Delfraissy lui-même l'a reconnu. Il a dit son regret d'avoir fait passer la santé avant l'humanité. Entre nous, tout cela fragilise un peu son avis.
Effectivement, le communiqué de l'Élysée parle aussi de concertation, de délibération. Bon, ça, c'est plutôt de bon augure, Vincent.
Ah oui, alors on appelle ça une consultation citoyenne. C'est très pratique, la consultation ou la convention citoyenne. On peut en faire sur la bioéthique, on peut en faire sur l'écologie, on peut en faire sur le vaccin. Le problème, c'est qu'à la fin, ça tourne soit au pugilat entre militants, soit au débat Potemkin. Alors celle-ci sera menée sous l'égide du CESE, ce qui est commode, puisque le président du même CESE s'est exprimé publiquement en faveur de l'euthanasie. Et puis s'il vous restait un doute, Dimitri, Emmanuel Macron l'a lui-même levé. C'était le 2 septembre, il décorait Line Renault à l'Élysée, et le chef de l'État était droit au but. « Votre combat pour le droit à mourir dans la dignité nous oblige », a dit Emmanuel Macron, « c'est le moment de le faire, nous le ferons ». Nous le ferons, la formule présidentielle est très claire, nous le ferons. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir commencé, le débat est clos.
Mais Vincent, vous ne pouvez pas nier que ce débat traverse la société et j'ajoute que les sondages montrent que les Français y sont hyper favorables.
Mais évidemment que ce débat traverse la société et traverse la conscience de tout le monde. La mort, la souffrance sont des tourments que nous avons tous en partage. Mais ce n'est pas une loi qui manque. La loi Leonetti est là, il suffit de l'appliquer. Ce qui manque, c'est un soutien puissant de l'État pour les centres de soins palliatifs. Ces centres font un travail admirable avec des moyens qui, à l'échelle nationale, sont malheureusement dérisoires. Si on faisait un sondage pour demander s'il faut aider ces soins palliatifs, je pense qu'il y aurait une immense majorité de oui. Et puis, je le répète, il faut s'approcher de ces sujets avec une immense précaution. Et le risque ici, c'est que la fin de vie soit utilisée comme un instrument politique.
Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron fait de la politique avec la fin de vie, là ?
Franchement. Quand la guerre est à nos portes, que l'on est sous la menace de coupure d'électricité, que la dette explose, que l'inflation grimpe, que l'insécurité galope, que l'islamisme nous narre, que la société française est fracturée, est-ce le moment de légiférer sur l'euthanasie ? Et cette fuite en avant sociétale devient un réflexe gouvernemental. Je prends un exemple récent, l'école. Tout s'affaisse, le niveau baisse, les profs manquent. Mais la réponse est sociétale, on se mobilise pour lutter contre les stéréotypes de genre en maternelle. Autre exemple, les EHPAD peinent à recruter, l'hôpital est aux abois, le grand âge en déshérence, mais la réponse est encore sociétale. On prépare une loi sur l'euthanasie. La triste vérité est qu'on nous promet un moment de délibération collective, mais qu'il s'agit d'une stratégie de diversion. Plus la politique publique est impuissante, plus la politique de l'intime prend de l'ampleur. Se réfugier dans le sociétal quand tout va mal, ça s'appelle faire du François Hollande.
Merci Vincent Trémolet de Villers. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, Macron ouvre la voie à une loi sur l'euthanasie. Merci Vincent, 7h56. Excellente journée, soyez les bienvenus sur Europe 1.
On est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On est obligé de faire des arbitrages et de prendre des décisions qui, quand elles sont coûteuses pour les finances publiques, doivent être le plus efficaces possible.
L'heure des arbitrages, voilà les mots de Gabriel Attal, la réponse aux actes d'Elisabeth Borne. La première ministre doit annoncer aujourd'hui la poursuite du bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité l'an prochain, mais en version réduite. Mauvaise nouvelle, hein, vous l'entendrez, les tarifs régulés vont augmenter dans une fourchette de 15 à 20%. L'hommage immense des Britanniques à la reine Elisabeth II. Dès cet après-midi, le cercueil de la souveraine sera exposé à Westminster. Des milliers de personnes sont attendues. On retrouvera l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Stéphane de place, il est à Londres. Droite populiste et droite classique aux portes du pouvoir en Suède. Les résultats des législatives sont attendus aujourd'hui. L'immigration incontrôlée a boosté le vote contestataire. Enfin, 8h13, votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, bonjour.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On va prendre le large ce matin avec Bertrand Piccard, explorateur et président de la fondation Solar Impulse. C'est peut-être la fin de l'abondance, mais ce n'est sûrement pas la fin des idées. Et notre invité en a en quantité pour faire face à la crise énergétique. On en parle tout à l'heure.
Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle la douloureuse. La facture énergétique va grimper l'année prochaine. Elisabeth Borne doit annoncer cet après-midi les grandes lignes du bouclier tarifaire pour 2023. Oui, il sera prolongé, mais cette fois le gouvernement ne joue plus au quoi qu'il en coûte, plutôt au combien ça coûte. Et ce qui est sûr, Aurélien Fleureau, c'est que pour les Français, ça va coûter plus cher.
Oui, et Bruno Le Maire l'a encore rappelé hier. La hausse sera contenue, mais il y aura bien une hausse. Concrètement, si l'augmentation se situe autour de 15%, la dépense annuelle en électricité d'un ménage va grimper de 140 euros. À titre de comparaison, Bercy n'a de cesse de rappeler que ce serait 120 euros par mois, sans aucun bouclier tarifaire. Donc attendez-vous, à partir de janvier 2023, à une hausse mensuelle d'une douzaine d'euros pour l'électricité et d'environ 20 euros pour le gaz. Alors évidemment, il s'agit ici de montants moyens. Ce bouclier tarifaire sera moins protecteur pour ne pas peser uniquement sur le budget de l'État. Et puis, c'est aussi une manière d'inciter à la sobriété. Il sera malgré tout orienté vers les plus précaires. Il y aura toujours un chèque énergie dont les critères d'obtention devraient être élargis. Et enfin, il y a bien sûr les dépenses de carburant. Le coup de pouce à la pompe ne devrait pas être prolongé au-delà du 31 décembre. Pour être remplacé par ce fameux dispositif gros rouleur envisagé depuis plusieurs mois, en clair, aider uniquement ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et l'Union européenne, elle aussi, est en quête de solutions face à la flambée des prix. Les 27 ministres de l'énergie ont rendez-vous le 30 septembre à Bruxelles.
Plafonner les prix du gaz importé, taxer les géants du nucléaire, pénaliser les gros consommateurs en période de tension. Plusieurs idées sont sur la table. L'une déjà actée, la limitation du prix de l'électricité qui ne pourra plus dépasser les 4000 euros du mégawattheure.
Voilà, toutes ces idées, elles devraient être dans le discours tout à l'heure d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'exprimera pour son discours sur l'état de l'Union. Question, ceci dit, comment produire cette électricité quand le gaz vient à manquer et que les centrales nucléaires sont encore pour la plupart à l'arrêt?
Eh bien, il reste la dernière option, la réouverture des centrales à charbon. Celle de Saint-Avold, qui devait définitivement fermer en mars dernier, a finalement repris du service sur demande du gouvernement. Sauvetage de dernière minute et pour quelques mois à peine. La correspondance de Mélina Fachin en Alsace reportage.
Au cœur de la centrale, des camions déchargent à nouveau des centaines de milliers de tonnes de charbon. Sylvain Krebs, responsable du parc, est un peu amer.
Tout le monde est content de revenir parce que ça fait de l'activité. Mais pour moi, on a déterré un cadavre. Là, les 210 000 tonnes que vous voyez derrière, ça va faire du CO2. On le sait, on va être obligé de le faire pour le bien de la nation, mais c'est vraiment parce qu'on nous le demande.
Presque tous les anciens salariés ont accepté de revenir, avec une prime mensuelle pouvant aller jusqu'à 5 800 euros. Camille Jaffrelot, porte-parole de Gazelle Énergie, le propriétaire du site.
C'est totalement inédit, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on demande à une entreprise privée de réembaucher des salariés qu'on vient de licencier.
La production redémarrera début octobre sur demande de l'État et en théorie juste pour cet hiver, mais tout le monde a de sérieux doutes.
Qu'est-ce qui aura changé dans la situation? L'Ukraine et tout, vous croyez que ça va être réglé? À mon avis, on est parti pour 2 ans. Quoi.
Ce qu'on a demandé, c'est d'avoir une vision claire pendant l'hiver, pour dire à nos salariés si oui ou non ils seront présents à la centrale l'hiver prochain.
Et ils espèrent surtout que les nouveaux projets de la centrale autour des énergies renouvelables ne seront pas retardés. Saint-Avold de Mélina Fachin, Europe 1.
Il est 8h05, 3700 hectares partis en fumée, 750 pompiers mobilisés. En Gironde, le feu ralentit mais continue de progresser.
Et 150 pompiers supplémentaires sont attendus aujourd'hui. Depuis lundi, 840 personnes ont dû être évacuées des communes de Somos et Sainte-Hélène dans le Médoc. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie.
Direction Londres maintenant, certains ont veillé toute la nuit à Buckingham. Nouvelle journée d'hommage pour Elisabeth II.
La première dans la capitale, la reine est revenue d'Écosse hier. Stéphane Place, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Alors ça y est, la reine est à la maison. Des milliers de Britanniques pourront se recueillir sur son cercueil dès aujourd'hui. Elle était très attendue dans la capitale.
Oui, d'ailleurs, Dimitri le signalait, mais de nombreux Britanniques ont effectivement passé la nuit devant Buckingham Palace, veillant en quelque sorte leur souveraine. Applaudis par la foule, le corbillard transportant le cercueil recouvert de l'étendard royal jaune, rouge et bleu du Royaume-Uni et d'une couronne de fleurs blanches a franchi les grilles du palais hier soir, smartphone en main, pour filmer ce moment historique. Ces deux quinquagénaires, Leslie et Vicky, disent leur émotion.
Très émouvant. J'ai pu lui dire au revoir dans ce dernier voyage. Elle est de retour chez elle et elle peut passer la nuit avec sa famille avant d'aller se reposer à Westminster. Je reviendrai à Londres lundi pour lui rendre un dernier hommage.
Je me sens à part, tellement chanceuse d'avoir aperçu le cercueil. Nous étions juste venus pour voir les fleurs. C'est très important parce que maintenant, elle est à la maison. C'est vraiment la fin du voyage.
Et ce matin, le cercueil est toujours dans la ballroom du palais de Buckingham, une grande pièce circulaire aux colonnes de marbre encadrant chacune des fenêtres monumentales.
Stéphane, on commente beaucoup la lourdeur, la précision du protocole entourant ces funérailles. Comment ça va se dérouler, ce transfert du cercueil de la reine de Buckingham à Westminster ?
Alors écoutez, cet après-midi, le cercueil de la reine va quitter sa demeure officielle dans la capitale sur un affût de canon pour rejoindre le palais de Westminster où il sera exposé pendant 5 jours, une procession qui sera saluée tout à l'heure par la cloche de Big Ben et des coups de canon à Hyde Park.
Merci beaucoup Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. On note qu'il y a quand même 30 heures d'attente selon les autorités britanniques pour pouvoir saluer le cercueil de la reine.
Direction la Suède maintenant, plus que quelques heures avant les résultats définitifs des élections législatives.
Ça va se jouer à un siège, score très serré avec en tête l'alliance de la droite traditionnelle et des démocrates, parti d'extrême droite. Une formation longtemps diabolisée qui devrait cette fois dépasser les 20% de voix et devenir une force majeure dans la prochaine coalition. Un bouleversement politique dans un pays gouverné depuis 8 ans par la gauche. Alors comment réagissent les Suédois ? L'envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm, Alexandre Chauveau, leur a posé la question. Reportage.
Alors que la pluie s'abat sur Stockholm, Alfonso répare la devanture d'une boutique de vêtements. Cet ouvrier n'a pas voté pour le parti anti-immigration, mais il reconnaît les qualités de son leader, Jimmy Åkesson.
Il parle bien et c'est exactement ce que les Suédois veulent entendre. C'est pour ça que les gens votent pour lui.
Historiquement, la capitale suédoise vote pour les sociaux-démocrates, mais plus d'un électeur ici est conscient de l'échec du gouvernement sur les questions d'immigration et de sécurité. Lucas a 19 ans, il est cuisinier et n'a pas voté dimanche dernier, mais il comprend le vote d'une partie croissante des électeurs.
Ces dernières années, on a accueilli beaucoup d'immigrés. Certains font des études et se comportent très bien, mais d'autres traînent dans la rue ou tombent dans la criminalité. Et ça, les gens n'en peuvent plus.
Peter, lui, est retraité et s'avoue plutôt résigné face au score des populistes.
L'immigration est un problème, c'est sûr, mais ce n'est qu'un sujet parmi d'autres. Il y a encore l'environnement, la redistribution des richesses, par exemple. Mais bon, l'immigration, bien sûr, ça permet d'engranger plus de voix.
Et malgré leur score historiquement haut, les démocrates de Suède ne sont pas sûrs d'entrer au gouvernement. Cela fera l'objet d'âpres négociations qui pourraient durer plusieurs mois. Stockholm, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Voilà, et ne manquez pas l'édito d'Emmanuel Ducrot tout à l'heure à 8h35, elle reviendra sur la Suède. En bref, la France doit-elle rapatrier les familles de djihadistes ? La CEDH va trancher aujourd'hui.
Oui, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme doit se prononcer sur le cas de 2 femmes parties en Syrie, rejoindre Daesh. Leurs parents ont saisi la justice en France à plusieurs reprises, mais leurs recours ont tous été rejetés. Ultime tentative donc pour faire rentrer leurs filles et leurs petits-enfants qui se trouvent actuellement dans ces camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie.
On termine avec le foot. Football et une nouvelle défaite pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
1-0 face à Francfort dans une ambiance tendue. Un supporter allemand a été blessé. 17 personnes interpellées en marge du match. 3 policiers également ont été blessés.
Et ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace en Israël face au Maccabi Haïfa.
Coup d'envoi 21h à suivre en intégralité sur Europe 1 dans Europe 1 Sport. Les Parisiens, leaders de la Ligue 1, invaincus cette saison, se déplacent sur le terrain du champion d'Israël. Match très attendu par les supporters du Maccabi. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Haïfa.
Oui, pour trouver les plus grands fans de ce club israélien, il faut se rendre à quelques kilomètres du centre-ville, à la Maccabi Haïfa Beach. Ici, au bord de la mer Méditerranée, une plage de sable fin, avec son poste de secours peint en vert et blanc, les couleurs du club, et des terrains de foot volé. Derrière un filet, une dizaine de jeunes frappent dans un ballon, tout en pensant déjà à l'événement de ce soir. Des fans qui viendront au stade soutenir leur équipe, mais aussi admirer les grandes stars du PSG.
Bien sûr, c'est un rêve de voir Messi ici à Haïfa, chez moi. Le Maccabi est désormais le meilleur club d'Israël et le champion en titre.
On a déjà battu le PSG, c'était il y a 23 ans.
Cette fois, les Parisiens seront favoris. Ils ont battu la Juventus de Turin la semaine dernière. Le Maccabi Haïfa, lui, s'est incliné sur le terrain du Benfica Lisbonne. Mais attention, au lendemain d'un long voyage, les joueurs du PSG devront être très méfiants car ce match s'annonce bouillant. Les 35 000 supporters du Maccabi Haïfa ont la consigne de venir tout en vert au stade pour aider leur club à créer la surprise.
Bah, l'ambiance est déjà au rendez-vous, la musique est là, Cyril de la Moerinerie est prêt pour nous faire vivre ce match en direct ce soir dans Europe 1 Sport, la Ligue des Champions, c'est sur Europe 1.
Il faisait du beach volley torse nu sur la plage hier, Cyril de la Moerinerie, il fait un temps incroyable là-bas. Merci beaucoup Fanny Marceau.
Merci.
8h11 sur Europe 1 dans un instant, Bertrand Piccard est l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1.
Votre invité, Sonia Mabrouk, est le président de la Fondation Solar Impulse.
Bienvenue ce matin sur Europe 1. Bonjour à vous, Bertrand Piccard.
Bonjour, Sonia Mabrouk.
Nous allons parler de votre initiative pour interpeller et je dirais même réveiller les politiques, quel que soit leur bord et leur parti. Tout est résumé dans un livre de 50 recommandations que vous faites. Mais tout d'abord, il y a quelques mois, Bertrand Piccard, nous vous recevions ici même à Europe 1. La crise énergétique n'était pas aussi prégnante qu'aujourd'hui et vous alertiez déjà sur le fait qu'il fallait arrêter d'opposer écologie et industrie. Vous rappeliez aussi combien le nucléaire était économiquement et écologiquement une énergie importante. Est-ce qu'aujourd'hui on s'en rend compte douloureusement ?
Mais aujourd'hui, on voit que la peur de l'hiver est plus forte que la peur des changements climatiques. Parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû utiliser davantage d'énergie renouvelable, longtemps qu'on aurait dû lutter contre le gaspillage en devenant plus efficient, c'est-à-dire en pouvant faire davantage avec moins de consommation de ressources. Et puis on ne l'a pas fait. Et tout à coup maintenant, avec la crise ukrainienne, eh bien on se réveille en sursaut.
Il y a la crise ukrainienne, il y a aussi les choix de nos gouvernants. Par exemple en France, Bertrand Piccard, alors que nous étions les champions du nucléaire, on se demande comment on a pu en arriver là. Est-ce que c'est un gâchis français selon vous ?
C'est-à-dire que le nucléaire n'aurait pu être diminué qu'en augmentant les énergies renouvelables et qu'en diminuant la consommation grâce à des mesures d'efficience. Et en fait, il n'y a pas eu cette corrélation. Ce qui fait que tout à coup, aujourd'hui, on se trouve avec la moitié du parc nucléaire à l'arrêt et pas d'énergie renouvelable pour pouvoir prendre le relais. Donc, c'est vrai qu'on paye aujourd'hui le prix d'une imprévoyance.
Qu'est-ce que vous pensez de tous les discours en ce moment sur la fin de l'abondance, sur la sobriété, sur le rationnement même ?
Mais je dirais que si on avait commencé plus tôt à entrer dans la logique des énergies renouvelables, à entrer dans la logique de l'efficience énergétique, la diminution du gaspillage, eh bien, on n'aurait pas eu besoin d'un discours qui est tout à coup catastrophiste et même catastrophique. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez poignant de voir que le mot de sobriété quitte le cercle restreint des décroissants pour arriver dans la bouche des dirigeants. Ça veut dire qu'ils sont complètement démunis. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la sobriété, elle est due à un comportement qu'on demande aux gens de changer. Et ça donne des résultats immédiats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre sur la sobriété en disant « mais il faut réduire ». L'efficience, elle n'est pas due à un comportement, elle est due à une amélioration technique. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps pour la mettre en œuvre. Donc je dirais qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'être plus sobre. Mais sur les 10 ans qui viennent, il faut développer l'efficience, il faut développer le renouvelable.
On va parler d'efficience, Bertrand Piccard, mais pardonnez-moi, oui, sur la sobriété. Jusqu'où faut-il aller dans cette sobriété, l'injonction justement à la sobriété ? Va-t-on vers un modèle de surveillance dans lequel on va épier l'empreinte carbone du voisin pour mieux le dénoncer ? Est-ce que c'est vers cette société-là qu'on est en train de se diriger ?
Personne ne voudra une société comme ça. Et surveiller l'empreinte carbone, c'est une dictature écologique. Maintenant, on n'est pas dans un problème purement écologique à court terme, on est dans un problème énergétique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a des millions d'Ukrainiens qui n'ont plus d'énergie du tout, qui vont plus pouvoir se chauffer, qui vont plus pouvoir s'éclairer, qui sont en guerre. Et les remous de cette guerre arrivent jusqu'en Europe, où on devra aussi se serrer la ceinture, on devra aussi se priver. Mais ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que dans la situation européenne, c'est dans les pics de consommation qu'il va y avoir des problèmes. Les pics de consommation, c'est à midi, quand tout le monde commence à utiliser son fourneau ou sa cuisinière électrique. C'est le soir, quand on rentre chez soi. Et c'est-à-dire que c'est donc important d'arriver à lisser la consommation sur l'ensemble de la journée pour qu'il n'y ait pas ces pics de consommation qui risquent ou de créer des coupures de courant, mm-hmm. ou alors des remises en marche de centrales à charbon pour pouvoir répondre à ces pics de demande, comme ce qui est en train de se faire. Voilà. Mais exactement, c'est ce qu'on a prévu de faire dans l'Est de la France.
Là, vous appelez à des efforts qui sont possibles, que l'on peut entendre, mais certains veulent faire rimer la sobriété ou la fin de l'abondance avec la décroissance, remettant ainsi en cause notre modèle de productivité et même nos besoins. Que répondez-vous à ces tenants de la décroissance aujourd'hui ?
Je réponds qu'il faut effectivement décroître la pollution, le gaspillage, l'inefficience, la démesure, les déchets, etc. C'est vrai qu'il faut décroître ça. Mais il ne faut surtout pas décroître le fonctionnement économique qui permet de payer pour la santé, l'éducation, la sécurité sociale, les caisses de retraite, etc. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, on avait couplé le développement économique avec la quantité de production et la quantité de gaspillage dans une économie linéaire. Mm-hmm. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est coupler le développement économique avec la qualité de l'efficience, c'est-à-dire avec tout ce qui permet aujourd'hui, par des mesures techniques, mais aussi par du bon sens, d'économiser l'énergie.
Mais oui, vous dites bon sens. Oui, vous dites bon sens, Bertrand Piccard, on vous entend. Vous faites rimer économie et écologie. Mais on a l'impression qu'en France, en tous les cas de la part de certains écologistes, on est toujours dans l'écologie punitive, moralisatrice, celle qui sermonne et qui interdit. Quand est-ce qu'on va en sortir ?
Mais c'est-à-dire que tant qu'on est dans ce type d'écologie-là, on n'arrivera pas à convaincre le monde politique et le monde industriel de changer. C'est pour ça que moi, je veux un nouveau narratif dans l'écologie. C'est ça que je fais avec la Fondation Solar Impulse. C'est montrer que l'écologie, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, qui est rébarbatif et menaçant, mais c'est au contraire quelque chose qui est économiquement rentable, qui crée des emplois, qui améliore le pouvoir d'achat des citoyens, en plus de protéger l'environnement. Et là, on a 1450 solutions techniques qu'on a répertoriées aujourd'hui dans le monde, qui existent déjà. Ce n'est pas de la high-tech pour le futur, c'est des choses qui existent aujourd'hui et qui protègent l'environnement de manière économiquement rentable.
Alors justement, ce sont des propositions et des solutions que vous allez remettre avant la fin de la semaine, Bertrand Piccard, au président de la République, à son gouvernement, à l'ensemble des députés également, de tous bords hein, confondus, ce que vous appelez un prêt à voter. C'est un livret de 50 recommandations visant à économiser l'énergie. Mais dites-nous, c'est un projet politique, on a envie de voter pour vous, si vous avez les solutions.
Alors, je ne fait pas partie d'un parti politique, justement, donc on peut pas voter pour moi.
Avec mais le cœur, j'aimerais m'adresser avec le bon sens et l'esprit.
Alors là, volontiers, c'est-à-dire en soutenant ce prêt à voter, qui s'adresse à tous les partis, quels qu'ils soient. Moi, je suis pas dans un parti politique, donc je peux parler à tous sans être menaçant. Et surtout, je peux parler à tous les partis politiques en leur montrant que les recommandations législatives que nous leur amenons sont dans l'intérêt de chacun. C'est en même temps l'indépendance énergétique de la droite, c'est en même temps le développement économique du centre, c'est en même temps l'écologie d'écologie Les Verts, c'est en même temps le pouvoir d'achat de la gauche, plus de solidarité parce qu'il y aura moins de dépenses énergétiques pour les ménages les plus modestes. Donc ça améliore l'état de la France en répondant aux attentes de chaque parti.
Bertrand Piccard, je suis sûr que nos auditeurs ce matin vous écoutent avec beaucoup d'attention. Là, vous nous parlez de propositions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Vous dites que vous avez des propositions concrètes qui vont venir alimenter le débat. Est-ce que vous avez une proposition ce matin à nous soumettre, l'une de vos propositions phares ?
Oui, exactement. On a pris des solutions techniques françaises qui sont handicapées dans leur déploiement par des législations qui sont archaïques. Alors, un exemple, une société qui produit des lampadaires pour l'éclairage public avec ampoules LED, panneaux solaires et batteries. Ça permettrait de faire économiser 37% des frais énergétiques d'une commune.
Un tiers des frais, 37%, plus d'un tiers.
Exactement, plus d'un tiers. Et pourquoi est-ce que ça ne se déploie pas ? Parce que les solutions innovantes ont un plafond extrêmement bas dans les marchés publics. Et ce que nous demandons dans une de nos recommandations législatives aux nouveaux députés de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est de déplafonner la part qui est liée à l'innovation dans les marchés publics lorsque ça protège l'environnement. Ça permettrait de répandre partout ce type de lampadaire et d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'argent, de développer une entreprise française qui va créer des emplois et qui protégera l'environnement en même temps.
Ce serait gagnant-gagnant, mais ce que
mais
vous
tout
dites...
est gagnant-gagnant
mais oui, mais ça tombe sous le sens, Bertrand Piccard. Mais comment vous pensez être entendu par tous ces politiques? Moi, je veux vous demander directement, est-ce que c'est de la naïveté ou un optimisme à toute épreuve de votre part?
C'est un réalisme total. Ah. Pour moi, le réalisme... c'est quand on cherche à atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. Donc en fait, on a 50 recommandations qui sont basées sur 50 solutions françaises et nous montrons, on a fait tout un travail avec un cabinet d'avocats, on montre à tous les députés où sont les obstacles au déploiement de ces nouvelles solutions qui sont bonnes et pour l'écologie et pour l'économie. Et on fait ces recommandations pour qu'en fait, on puisse moderniser la législation au même rythme que la technique se modernise. Aujourd'hui, toutes les solutions pour protéger l'environnement, elles sont très en avance sur la réglementation. Et la réglementation aujourd'hui, elle est un obstacle. Donc, on ne demande pas du tout plus de règlements, on ne demande pas d'interdiction, on demande au contraire des autorisations pour que les choses puissent se faire. Je vous donne un autre exemple. Un système qui permet de diminuer de 20% la consommation des voitures avec moteur thermique. Oui. C'est fondamental quand on voit le prix du carburant aujourd'hui. Et en même temps, de diviser par deux les émissions polluantes. Eh bien, la recommandation qu'on fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de permettre aux détenteurs de ce système sur leur voiture d'avoir une vignette critère qui leur permet de rouler pendant les pics de pollution puisqu'ils polluent beaucoup moins. C'est un encouragement énorme.
Bien, on connaît ce système, mais est-ce que c'est de nature à révolutionner, à vraiment faire face aux défis énergétiques et climatiques? Toutes ces propositions cumulées vont vraiment faire avancer les choses?
Alors, on a fait une estimation. L'ensemble des 50 recommandations que nous faisons améliore de 30 à 40% les émissions de CO2 de la France. Et c'est tout ça d'économie également dans le gaspillage énergétique, dans le gaspillage de ressources. Alors vous voyez, quand le gouvernement dit qu'il faut arriver à économiser 10% de l'énergie française sur les 10 prochaines années, on voit que c'est très peu, c'est pas ambitieux comme but. On peut faire beaucoup plus, mais on peut pas faire plus si on se limite à la sobriété, parce que les gens vont simplement pas pouvoir vivre sans chauffer leurs bâtiments, sans se déplacer, etc.
Alors ça, c'est très important parce qu'il y a une question de, pardonnez-moi, de psychologie. Vous avez récemment dit sur les réseaux sociaux, en tant que psychiatre, hein, parce que vous cumulez les casquettes, Bertrand Piccard, qu'il était difficile de changer les mentalités et qu'il était important de donner aux gens la motivation. Mais ça ne se décrète pas, la motivation. Pour conclure, comment vous l'insufflez, cette motivation, aujourd'hui?
La motivation, ça doit se donner en montrant les avantages qu'on va avoir. Si on dit que c'est pour lutter contre les changements climatiques qui toucheront l'humanité dans 50 ans, c'est pas très motivant pour ceux qui sont pas altruistes. Par contre, si on dit que c'est immédiatement maintenant qu'on diminue la facture du chauffage parce qu'on met des pompes à chaleur ou des solutions géothermiques en ville, si on dit qu'on va consommer moins de carburant avec la voiture parce qu'on a des modules qu'on peut mettre sur les moteur thermique, si on voit qu'on peut réabsorber la chaleur des cheminées d'usines pour diminuer la facture énergétique des usines et la pollution inhérente à cela, eh ben tout à coup, tout le monde va y trouver son compte.
Donc il faut motiver
plutôt que punir. Les usines vont faire, les
industries
vont faire.
Motiver alors, plutôt il faut... que punir.
Oui, alors vous avez toujours des récalcitrants pollueurs qu'il faut cadré avec une menace de punition. Mais ça, c'est la même chose pour le code de la route, pour les lois sur la santé publique, etc. Il faut cadrer pour que les délinquants écologiques soient punis. Mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, ils essayent de faire mieux, mais on ne leur a pas donné les outils pour pouvoir faire mieux.
On va suivre cela avec beaucoup d'intention, vos 50 propositions très concrètes au président de la République, au gouvernement et à tous les parlementaires. Merci Bertrand Piccard, merci aussi pour votre regard toujours positif et passionné et la longévité de votre engagement. On vous dit à très bientôt sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Volontiers, merci beaucoup. Au revoir Sonia Mabrouk.
Au revoir.
Merci Bertrand Piccard et merci Sonia Mabrouk. Dans un instant sur Europe 1, Gaspard Proust et la chronique en absurdité d'Emmanuel Ducrot avec qui nous irons
irons faire un petit tour en Suède, ou plus exactement dans la littérature policière suédoise. Tout y était dit de ce qui est en train de se jouer actuellement. 8h28.
En France ou en Europe.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'essentiel de l'actualité à 8h31 sur Europe 1 avec Christophe Lamarre.
Le feu continue sa progression dans la région de Lacanau. 3200 hectares ont brûlé. Les pompiers ont lutté toute la nuit et vont bénéficier de nouveaux renforts. Près d'un millier d'hommes au total sur le terrain pour tenter d'éteindre l'incendie qui a déjà entraîné l'évacuation de 840 habitants à Somos et Sainte-Hélène. La dépouille de la reine Elisabeth II quittera Buckingham cet après-midi à 15h. Le cercueil posé sur un affût de canons entamera une procession d'une quarantaine de minutes dans les rues de Londres jusqu'au palais de Buckingham où des milliers de londoniens attendent de pouvoir dire adieu à leur souveraine. En Ukraine, l'armée russe répond à la percée ukrainienne par des bombardements massifs. Moscou multiplie les frappes aériennes, navales et terrestres. Ses cibles, les positions avancées des forces de Kiev autour de Kharkiv et de Donetsk. Autre conflit, celui qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan. La rupture du cessez-le-feu entraîne ces deux républiques du Caucase. A déjà fait une centaine de morts des deux côtés. La communauté internationale appelle les deux belligérants à la retenue. Elisabeth Borne présentera cet après-midi les nouveaux contours du bouclier tarifaire pour l'année prochaine. Il sera maintenu mais moins généreux. Le gouvernement pourrait acter une augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité pour les particuliers. La hausse pourrait tourner autour de 15%. Et puis à l'instant, le gouvernement relève ses prévisions de croissance pour 2022. Le PIB va progresser de 2,7% au lieu des 2,5% prévus, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin sur CNews. Le ministre de l'éducation se rendra dès que possible au lycée Malherbe de Caen. Pape Ndiaye condamne avec fermeté l'agression au couteau dont a été victime une enseignante. Le parquet affirme que ses jours ne sont pas en danger, mais il ne s'explique pas le geste de son agresseur. Un lycéen de 15 ans décrit jusqu'ici comme sans histoire. La France joue sa place en demi-finale de l'Euro de basket cet après-midi face à l'Italie. Coup d'envoi à 17h15. L'affiche de la première demi-finale opposera l'Allemagne à l'Espagne. Enfin, la Ligue des champions de football. Le PSG se déplace au Maccabi Haïfa ce soir à 21h. Rencontre à suivre dans l'émission Europe 1 Sport. Hier à Marseille, a compromis ses chances de qualification pour les 8e de finale. Défaite de l'OM 1-0 face à Francfort. Enfin, l'enquête sur l'agression dont avait été victime la joueuse du PSG, Kera Amraoui. Trois hommes viennent d'être placés en garde à vue. On vient de l'apprendre. La footballeuse avait été violemment frappée aux jambes par plusieurs individus dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021.
Merci Christophe. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Haddadi, on a 7 départements ce matin qui sont en vigilance orange.
Oui, il s'agit de l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, ça depuis hier. Et puis, depuis quelques minutes maintenant, vient de se rajouter le Var. On a de très violents orages là qui sont en train de balayer le littoral méditerranéen entre Marseille et Toulon. Soyez très prudents dans ce secteur. On a déjà 114 mm à Entraigues sur Volanne. C'est en Ardèche. On attend des cumuls de pluie très importants dans le sud de la France. Et puis du vent fort et de la grêle. Alors les orages qui touchent le littoral méditerranéen vont remonter cet après-midi et même déjà en fin de matinée le long de la vallée du Rhône jusque dans le nord-est. Donc tous les deux tiers est du pays seront sous les orages aujourd'hui. Il y a une zone qui reste au sec, c'est le sud-ouest, avec la côte aquitaine, l'Occitanie, avec là un grand soleil et un temps plutôt agréable.
Oui, il y a une situation plutôt inquiétante sur le front des incendies, vous me disiez.
Bah oui, du coup, il y a des incendies en Gironde et dans les Landes et le vent va se réactiver cet après-midi. Alors, il n'y aura pas de pluie, il y aura du soleil et beaucoup de vent, ce qui va compliquer la maîtrise des incendies en Gironde.
Merci Anissa Haddadi, 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
C'est l'heure de la signature Europe 1. Bonjour Gaspard Proust.
Bonjour.
Alors j'imagine que vous allez nous parler de la reine cette semaine.
Ah bah oui, bah c'est ce qu'il y a de plus passionnant entre la reine et la reine. Entre la République en marche et la reine en nécrose, il n'y a pas photo. Parce que si je dis ça, j'ai bien compris, donc il faut attendre 10 jours avant qu'elle soit enterrée, c'est ça?
Ouais,
ça
c'est
en dit
ça.
Quand même long sur les Britanniques. Hein. Quand tu mets 10 jours à enterrer une nana qui pèse 30 kilos, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient perdu tout leur empire colonial. Mais en fait... Heureusement qu'elle ne s'est pas convertie à l'hindouisme. Je suis sûr qu'on aurait eu droit à une polémique sur le bilan carbone lors de sa crémation. Et fouf, la reine benzine et la planète, bordel, gna gna.
Donc, j'imagine que vous n'avez pas trop suivi les événements de ces derniers jours.
Ah non, je suis saturé. Après, il faut reconnaître qu'avec ce cortège funèbre, l'Angleterre a mis la barre haut pour les funérailles des autres rois du monde. Quoi. Je veux dire, je pense que pour faire tenir un deuil comme ça sur 10 jours à Monaco, ils seront obligés de tourner en rond sur les parkings. Mais c'est vrai que ça nous a quand même tous surpris. Hein. Un destin brisé à 96 balais. Tout le monde se dit « Pourquoi si jeune ?»
Oui.
Alors, on n'était pas préparé. Autant un balavoine qui, bon, passait son temps à balancer du riz sur des villages maliens en hélico, tu dis qu'il la cherche un peu, tu vois, qu'à un moment, il va se prendre une palle dans une case. Mais quand, quand t'as 96 balais, il te reste encore tellement de choses à faire.
Eh oui.
Hein, je sais pas, la traversée du salon sans te péter une hanche. Tu vois, la montée d'un étage à pied sans oxygène. Ouais. Et revenez vivante de Balmoral et signée comme défenseur central à Manchester United. Quoi.
Non, c'est... Gaspard, c'est quand même la reine. On a vu des gens pleurer.
Ah, mais, non, mais Dimitri, quand t'es britannique, je comprends que tu chiales. Hein. Pas tellement parce que mamie a pété le couteau dans la quiche, mais parce qu'il faut voir qui arrive derrière. C'est-à-dire, le fiston, c'est un fou furieux.
Ah bon, Charles est dangereux d'après vous?
Mais évidemment, il est écolo. Je veux dire, il vous faut quoi de plus? Le gars, c'est un Kim Jong-un de l'éolienne. Il paraît qu'il parle aux plantes, il donne son avis sur le niveau des océans. Alors lui aussi, il a remarqué, ah, il fait un peu plus chaud. Incroyable, bravo. Et en plus, il va hériter d'une fortune de 300 millions. Vous imaginez si Corinne Sartre gagnait à l'euro million?
Corinne Sartre, qui est-ce?
Ouais, c'est le nouveau surnom de Sandrine Rousseau. C'est histoire de me renouveler. Comme j'aime pas Jean-Paul Sartre, je me suis dit, tiens, un tacle comme ça, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Non, mais imagine Corinne, elle coche les bonnes cases à l'euro million, oh, elle encaisse le chèque. Bon, une fois qu'elle s'est fait plaisir au niveau shopping, c'est en s'achetant des chiottes sèches en or massif, des sandales de réflexologie en platine et un vibromasseur en chanvre, tu vois, il lui restera quand même de quoi s'acheter un jet pour aller le planter dans une centrale nucléaire. Donc, non, mais ça saute aux yeux. Il est pas net, Charles. C'est-à-dire, tout le monde est là. Ah, il a fait un beau discours. Ah, quel beau discours. Il était là. Ah, plus avec toute cette mièvrerie en bandoulière, là. My dear papa. My beloved mama. Le gars, il a 73 balais. Putain, on dirait Rémi sans famille en church, quoi. Faut arrêter, quoi. Pauvre biquet.
Bon, vous exagérez, Gaspard, vraiment.
Mais pas du tout. Pardon, mais un mec qui trompe pendant 15 ans, Diana avec Camilla. Vous avez vu la tronche de Camilla? Non, mais c'est comme si t'étais marié à Maréva Galanter et que tu l'as trompé avec Josiane Balasco, ça n'a aucun sens.
Bon.
Mais heureusement, bon, après, ça, je suis un peu pessimiste, il y a des bonnes nouvelles aussi dans l'actu.
Ah bon, lesquelles? Dites-moi.
Ah bah, il y a des journalistes, là, ils sont allés fouiller les arrière-cuisines du bouddhisme tibétain. Putain,
ah,
c'est
oui.
Pas feng shui. Hein. Ouh là, oui, là, oui. Là là là.
Ah, effectivement, il y a une enquête fouillée qui dénonce de mauvais traitements sur les enfants, des agressions sexuelles, etc.
Oui. Après la méditation de pleine conscience, la fellation de pleine inconscience. Non mais tu m'étonnes quand on les met face à leurs défauts. Non mais l'important c'est la bienveillance plutôt que la dénonciation.
Bon, on a...
Soyez chic quoi.
Vous avez une joie mauvaise, Gaspard.
Oui, absolument, oui. Non mais moi j'en pouvais plus tous ces moines bouddhistes et apparentés, tu sais, qui viennent dans si propagandisent la fleur de lotus, ils arrivent toujours sur les plateaux télé avec leur air ronflant à débiter leur platitude. Non mais ce qui est important dans la vie, c'est de s'asseoir, de penser à rien et de respirer. En gros, attendre un TER en retard, quoi. Faut arrêter. Hein? Et tous les invités, ah ouais, incroyable, en PLS, ah c'est vrai, regardons-toi avec compassion. De toute façon, moi je dis, c'était prévisible, hein, tous ces dérapages. Un gars qui te sourit de manière niaise, en rideau de douche et en tongs, ça sent quand même un peu le savon qui glisse sous la douche, quoi. Hein? Sur ces belles paroles, un bon réveil à tous.
On est en retard.
On est en retard?
Non, on est à l'heure, on est pile à l'heure.
Ah bon, d'accord.
Et on embrasse toutes les Corinne.
Oui, bien sûr.
Bah oui, toutes les
Corinne. On s'excuse, évidemment.
Quel mauvais garçon, merci Gaspard Proust. 8h39. Emmanuel Ducrot, je me tourne vers vous pour votre chronique en Aujourd'hui. On va en Suède ce matin, où il y a eu des élections législatives le week-end dernier. Les résultats définitifs vont être connus dans la journée. Alors, ce qui se dessine, on en a beaucoup parlé sur Europe 1, c'est inédit. La gauche au pouvoir en serait chassée, l'extrême droite serait la deuxième force du pays et pourrait former une coalition avec la droite traditionnelle. Bon, alors, vu de France, tout ça nous paraît très surprenant, mais en fait, vous nous dites, tout ça c'était écrit, il suffisait de lire tout simplement.
Eh oui, dans ces élections pleines de suspense, il y a quelque chose d'un thriller et à plus d'un titre, car ce qui se déroule en Suède, la montée de l'extrême droite, l'exaspération sociale, l'immigration mal maîtrisée, la violence, tout, absolument tout avait été écrit, Dimitri, c'était à notre portée dans les rayons de nos bibliothèques. L'école du polar suédois qui s'est très bien exportée à tout documenté, ça depuis plus de 50 ans. Et si la Suède est aujourd'hui le pays d'Europe avec le taux le plus élevé de meurtres par arme à feu, ça ne devrait absolument pas nous surprendre.
En fait, l'envers du paradis social-démocrate, comme on présente toujours la Suède, en fait, était sous nos yeux de lecteurs.
Eh oui, il y a une tradition suédoise de la dénonciation sociale par le roman policier. Les précurseurs, c'est un couple, Mal-Cheval, Père-Valeux, pardon pour mon suédois.
Pas mal.
Oui, pas mal.
Il y a deux autres émas d'affilée dans Père-Valeux quand même.
Père-Valeux, 10 romans publiés en Suède entre 65 et 75 qui démontraient que l'égalitarisme social-démocrate craquait de partout. Ils ont été traduits en français dans les années 70, c'était là.
Oui, ça aurait pu l'être aussi avec la série des Wallander d'Henning Mankell, ça, c'est beaucoup de gens ont lu ça. Hein.
Ouais, les enquêtes de ce flic rural qui sont d'une précision rare et il est bien connu, il a même été adapté pour la télévision avec Kenneth Branagh. Mankell décrit la déliquescence lente de la société suédoise, les structures traditionnelles familiales qui se délitent. Ça commence dès le premier opus de la série Wallander, ça s'appelle Meurtrier sans visage. On lit les tensions xénophobes, on voit les réseaux d'immigration clandestins et on suit les étrangers déracinés qui peinent à trouver leur place. Et on voit aussi le choc qu'a été l'ouverture à l'immigration massive dans une société fermée, très homogène. Mankell décrit aussi l'extrême droite vivace, agressive, ces idées qui gangrènent la société. Et c'est cette extrême droite qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Et puis Mankell, il est flic. On voit aussi la police dépassée, la bureaucratie étouffante. Il y avait tous les indices. Et quand la Suède des banlieues s'est enflammée en 2013, on pouvait comprendre déjà exactement pourquoi.
Alors, la série Millennium aussi, ça, universellement connue maintenant, aurait aussi pu, vous nous dites, nous aiguiller. Il y a quelque chose de pourri, en effet, au Royaume de Suède dans ces livres.
Oui, carton planétaire, hein, cette trilogie de Stieg Larsson sortie en 2005. Alors, pas un néo-nazi, hein, Larsson, hein, un auteur d'extrême gauche. Il est décédé en 2004, avant même la sortie de ses livres. Il décrivait, au travers des yeux d'un journaliste idéaliste et d'une jeune femme marginale, une société parallèle, invisible, sous le vernis social de la social-démocratie triomphante. Violence, extrémisme, injustice. Larsson disséquait un corps social en décomposition, mais c'est comme s'il avait écrit dans le désert. Et même chose pour Camilla Läckberg, plus gentille, hein. Ces polars qui mènent passé trouble de la Suède et époque contemporaine en crise d'identité. Son dernier roman, c'est août 2022. Ça s'appelle La boîte de magie. Bon, il y a une intrigue un peu fantasque autour d'un meurtrier obsédé par le matériel de cirque. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à côté. Notamment la description d'une sorte de fraternité blanche qui mène des expéditions punitives contre les étrangers qui souillent le sang suédois en fréquentant les jeunes filles du cru d'un peu trop près.
Et pourquoi, d'après vous, Emmanuel, on est si surpris aujourd'hui de la montée de l'extrême droite, du ras-le-bol suédois alors ?
Eh oui, il y avait tous les indices, mais on n'a pas voulu les voir. La Suède, dans notre inconscient collectif français, c'était une société paisible, sûre, harmonieuse, bienveillante, de l'égalité, du dialogue. Et même l'assassinat du Premier ministre Olof Palme en 1986 ne nous en a pas fait démordre. La Suède, c'est ce pays qui avait réussi ce que nous ne parvenions pas à atteindre, une société bien rangée comme un magasin Ikea. Le témoignage ultra réaliste des romanciers suédois est resté littéraire, exotique, parce qu'on a refusé de le prendre pour ce qu'il est, des chroniques fidèles, politiques, crues. Le réel, c'est quand on se cogne, disait Lacan. Eh bien, notre fiction à nous vient de s'encastrer dans le mur du réel.
C'est le proverbe de ce mois de septembre 2022. Le réel, c'est quand on se cogne. J'entends partout en ce moment. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. C'était super. Excellent, excellent. Vraiment, et on sait ce que vous lisez maintenant, l'été sur la plage.
J'avoue, un petit plaisir coupable avec le polar suédois.
Le club de la presse arrive dans un instant. Louis Osalter arrive très tard. On va parler de la fin de vie. À tout de suite.
Europe Matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
8h46 sur Europe 1, le club de la presse. Est-ce qu'on pourra bientôt en France abréger sa vie quand on souffre trop ou que l'on redoute une fin douloureuse? Le comité consultatif national d'éthique a rendu hier un nouvel avis sur la fin de vie. Alors visiblement, il a changé son fusil d'épaule puisqu'il est désormais favorable à une assistance au suicide de manière encadrée. Il y a quelques années en arrière, 6 ans en arrière, le CCNE disait exactement le contraire à partir des mêmes diagnostics. Alors c'est intéressant de voir, moi, se questionner ce matin, qu'est-ce qui a fait changer le CCNE d'avis. On va en parler avec ce matin Louis Osalter, il est journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis.
Bonjour Dimitri.
Bienvenue, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ces questions de bioéthique.
Notamment,
vous êtes un homme éclectique, mais vous avez travaillé sur ces sujets. Yves Tréhard est aussi avec nous, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être politiquement, commençons par là. On a abordé la dimension éthique du sujet tout à l'heure avec Emmanuel Hirsch à 7h10. Vous pouvez réécouter cet entretien sur europe1.fr. Mais politiquement, Emmanuel Macron, pourquoi maintenant? On a la grille, on a la guerre, on a l'inflation, on a une somme de problèmes très importants et urgents à gérer. Et le président de la République lance un débat sur la fin de vie. On peut s'interroger sur le calendrier quand même, Yves Tréhard. Je fais le naïf.
J'ai un peu l'impression que la réponse est dans votre question.
Ah bon?
En l'occurrence, oui, effectivement, il y a deux volets. Il y a un volet éthique qui est compliqué, très compliqué. Oui. Il y a un volet politique qui est un peu moins compliqué, me semble-t-il. C'est-à-dire que le président de la République a un urgent besoin de montrer qu'il agit. de montrer qu'il est dans l'action, alors qu'on a l'impression que le pouvoir exécutif est encalminé dans une espèce de maelstrom compliqué, sans cap. Oui. Personne n'est capable de dire précisément où le président de la République veut nous emmener, avec, en plus, il faut le dire, un paysage politique qui est complètement chamboulé, qui n'est pas du tout celui auquel il s'attendait, avec des oppositions multiples et variées, et avec lesquelles il va avoir du mal à réformer le pays, il va avoir du mal à conduire une politique qui est une politique qui fait, je dirais, majoritairement, qui est approuvée majoritairement.
Mais prend-il un risque politique, là ?
Donc là, il prend ce sujet. Il prend deux sujets à la fois, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le calendrier. Il nous parle des retraites. Oui. Il convoque une centaine de journalistes auprès de lui pour leur dire « Les retraites, je vais les faire. » Là, les retraites risquent maximum. Risquent à la fois de perturbations sociales dans le pays, programmées quasiment. Et puis, ce deuxième sujet pour lequel il nous annonce un changement qui est assez important quand même et dont les sondages lui disent qu'il y a une immense majorité de la population, 90% de la population, qui est favorable à une euthanasie active, alors que jusqu'à présent, au terme de la loi Claeys-Leonetti, c'était une euthanasie passive.
Oui, c'est ça.
Et donc, il donne, je dirais, un droit, parce qu'en plus, le problème aujourd'hui dans notre société, et surtout en France, où il n'y a plus d'argent en caisse, là où on ne peut plus distribuer d'argent, on distribue des droits. Ouais. Et ça, ce droit, il le distribue, ça fait l'unanimité à la fois, presque, à gauche et à droite. Ouais. Même si, à mon avis, quand le débat va s'installer, et ça, Louis est peut-être plus à même que moi de le dire, je suis persuadé que là, des divisions, des lignes de fracture internes à chaque, chaque camp et chaque famille politique pourraient se faire jour.
Ouais. Alors, Louis Osalter, justement, sur le plan éthique, Yves, a dit la chose importante. Il dit la loi de 2016, la loi Leonetti, elle s'arrête à l'euthanasie passive, c'est-à-dire sédation profonde.
Profonde et continue.
Voilà, et ensuite...
En cas de situation incurable.
Voilà, avec l'interdit de tuer, qui est posé comme la limite du texte. Là, on franchirait ce cap-là avec cette idée d'une assistance au suicide, d'une assistance médicale au suicide.
Ouais, alors ce terme est important d'ailleurs, parce que ce que dit le comité d'éthique dans son rapport, c'est la voie qu'il ne privilégie n'est pas celle de l'euthanasie, dans laquelle le corps médical donne la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la rupture que ça représente pour le corps médical, et d'où l'opposition de nombreux médecins qui en parlent, effectivement, avec évidemment une clause de conscience. Mais la voie privilégiée par le conseil d'éthique, c'est plutôt l'assistance au suicide, c'est-à-dire donner les moyens à la personne de se donner la mort.
Ce qui, Jean-Luc Godard.
Voilà, philosophiquement, c'est pas exactement la même chose. Entre donner la mort et le fait que ce soit un médecin qui fasse la démarche, et que ce soit quasiment un acte médical, et donner les moyens de se donner la mort. Bon, le débat va s'ouvrir et à mon avis, en entrant effectivement dans la complexité du débat, on va voir apparaître des lignes de fracture un peu moins claires que ce que des sondages commandés en général par des associations parties prenantes, mais c'est la règle du jeu, qui utilisent leurs mots à elles. Si on lit ces sondages, on dit il y a une opinion majoritaire de gens qui sont pour le droit à mourir dans la dignité, mais qui est pour le droit à mourir dans l'indignité.
Mais
vous voyez ce que je veux dire, c'est la sémantique est très importante,
c'est ça.
Et surtout le débat sur l'application actuelle de la loi est important aussi. Parce qu'il y a une loi qui est en vigueur en ce moment aussi, qui prévoit des dispositions qui ne sont pas appliquées.
Quand on lit l'avis du CCNE, il est écrit que l'assistance au suicide pourrait être ouverte aux malades condamnés à moyen terme et en cas de souffrance psychique. C'est-à-dire, vous avez un médecin qui vous annonce que vous en avez pour moins de 10 ans à vivre, et ça vous torture psychologiquement, vous pouvez réclamer le droit à la fin de vie. Mais alors là, on imagine l'éventail des possibilités, du contentieux qui va se mettre en place. Enfin, je veux dire,
effectivement, parce qu'il y a des sensibilités très différentes qui vont entrer en jeu. Il y a des considérations. Alors, on va vite, le débat va être vite schématisé entre réactionnaires, conservateurs et progressistes.
C'est le débat qu'on a eu
il y a 10 ans,
donner
la mort à quelqu'un, je ne vois pas en quoi c'est un progrès. Et la refuser, je ne vois pas en quoi c'est conservateur, parce que quand vous souffrez, vous souffrez. C'est un problème qui est un problème qui va au plus profond, au nu de la vie, je dirais, carrément. C'est un problème qui est extrêmement compliqué. Alors il y a des considérations religieuses qui rentrent là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est le droit de mourir dans la dignité, par exemple, c'est un sujet qui est porté par la franc-maçonnerie. Il faut lever les tabous depuis des années et des années, ça. Ils militent pour ça avec des arguments qui valent ce qu'ils valent, d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec Louis. Moi, je trouve que c'est très différent de faire la distinction. Il faut faire la distinction entre le suicide assisté et l'euthanasie active. Oui. L'euthanasie active, pour quelqu'un qui, effectivement, dans le pronostic vital, n'est pas engagé immédiatement, oui. Vous imaginez la responsabilité. Et puis, moi, je suis de ceux qui pensent que les médecins et le corps médical n'a pas à donner la mort, il n'a qu'à donner la vie.
Oui.
Alors, vous allez me dire, c'est très facile, c'est une remarque très facile, mais je crois que c'est quand même ce que beaucoup de médecins, d'ailleurs, oui. Eh bien, ont en tête.
Alors, il y a aussi, ce débat survient quelques mois après le scandale Orpea. Je ne peux m'empêcher de faire le lien entre les deux sujets. L'indignité de la fin de vie dans certains EHPAD. Et on a quand même l'impression, enfin, c'est une réflexion qu'on peut se faire, que cette idée d'ouvrir la possibilité de l'assistance au suicide est une sorte de pis-aller face à l'incapacité de notre société à gérer les 10, 20 dernières années de la vie qui se fait de plus en plus longue.
Hein. Oui, je pense que ça répond à une culpabilité, effectivement. Oui. Déjà, ça répond au questionnement de chacun face à notre propre mort. C'est-à-dire, effectivement, c'est assez logique de se dire faire une loi qui permettrait quelque part de maîtriser sa mort à défaut de l'éviter. Je pense que ça rejoint un questionnement au plus profond de chacun et qu'effectivement, il peut y avoir un côté rassurant en fait en se disant par une loi, on va essayer au moins de choisir ou d'abréger le moment. Mais la loi n'abolira pas la mort. Enfin, il ne faut pas non plus se laisser illusionner par les arguments philosophiques qu'on aura derrière. Deuxièmement, effectivement, le rapport au grand âge, à la dépendance, aux EHPAD, et le message qui peut être envoyé, c'est sur quoi alertent certains médecins depuis d'ailleurs plusieurs années, c'est que est-ce que le droit à se donner la mort ne risque-t-il pas de se transformer en injonction à la mort quelque part ? C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes dans un EHPAD, vous êtes quasiment en situation de mort sociale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas utile, vous n'êtes pas productif, vous coûtez de l'argent, des gens doivent s'occuper de vous toute la journée, vous êtes dépendant. Est-ce que, dès lors que la société, dès lors que la société vous autorise à vous donner la mort, oui. Est-ce que ça ne va pas se transformer quelque part ? Chacun, en fait, devra se poser la question, en tout cas sera amené à se poser la question, dans cette situation-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se donner la mort pour soulager la société, ouais. Pour soulager ses proches voilà. Attendez, c'est pour ça que je parle de bascule. C'est parce qu'il y aura une bascule qui concernera chacun d'entre nous, si nous sommes confrontés à cette situation, et ça risque de concerner beaucoup de personnes.
Donc, mais ça, c'est un discours qui a été développé.
Ça pose l'utilité sociale du grand âge.
Moi, je me souviens avoir assisté, jeune journaliste, alors c'est pas nouveau, à un colloque sur justement la fin de vie, en disant tous ceux qui ne sont plus productifs, eh bien, en gros, sédation. Hein. Il y en a un qui a défendu cette thèse dans un livre il y a quelques années, il s'appelle Jacques Attali. Quand vous êtes plus productif, bah vous sortez de la société, vous coûtez cher. Dans le système capitaliste, eh ben vous dégagez, en gros. Et je reprends le terme, évidemment, que vous dites, on est dans un EHPAD où on est indigne. Mais moi, je me souviens d'un texte de Michel Houellebecq, il n'y a pas très longtemps.
Dans les colonnes du Figaro.
Dans les colonnes du Figaro, il dit, mais c'est quoi la dignité ? Est-ce que quand vous êtes dans un EHPAD avec l'œil qui tombe, le nez cassé et puis la bouche tordue, est-ce que ça, c'est de l'indignité ? Ben non, c'est une phase de votre vie. Mm-hmm. Tout le monde ne la connaît pas, heureusement d'ailleurs.
Oui.
Et est-ce que c'est parce que vous êtes dans un état pas présentable qu'on doit vous liquider ? Ou que vous avez envie de partir ?
Il a cette phrase, Houellebecq, je crois que c'est Anéantir, son dernier roman. Ouais. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à sa dernière heure. Alors, on sait qu'il a un rapport un peu complexe à la religiosité, à la foi.
Ouais.
Et on sent qu'il y a un message chrétien derrière cette phrase de Houellebecq. Mais c'est précisément dans le périmètre de notre débat, là.
Alors, vous dites chrétien, mais je pense que pour toutes les religions, l'euthanasie, c'est pas quelque chose qui est accepté. Hein, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans, chez les catholiques.
Tiens, mais je l'ignore, ça. Non,
c'est quelque chose qui est absolument...
Il y a un tabou.
Absolument, je ne sais pas s'il y a un tabou, mais parce que la religion, c'est la vie.
Oui.
Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas toléré.
Mais le débat sera aussi médical. Enfin, Yves a raison, il a posé le schéma en disant, on peut simplifier en disant, les francs-maçons seront pour, et puis l'Église catholique sera contre. Mais le débat, je pense, j'espère, ne se résumera pas à ça.
Non, j'espère.
Et il
non.
se posera aussi au corps médical. Et en fait, ceux qui interviennent le plus, et heureusement, ce sont les médecins qui d'ailleurs ne sont pas d'accord entre eux. Il y a certains médecins qui sont pour l'euthanasie. Mais moi, je retiens quand même une phrase du rapport du comité consultatif d'éthique qui a été rendu hier. Il alerte quand même sur la non-application de la loi actuelle. Il écrit « La très grande majorité des situations de fin de vie pénibles résulte d'une mise en œuvre insuffisante, voire défaillante, des dispositions législatives et réglementaires. » C'est-à-dire que la fameuse loi Leonetti-Claeys, qui prévoit la sédation, mais surtout le développement des soins palliatifs, elle n'est pas appliquée par manque de disponibilité, par manque de moyens, par manque d'unités de soins palliatifs sur le territoire. Il y a une énorme inégalité d'accès.
Merci,
ça fait
Louis.
Partie de la grande crise de l'hôpital et des soins. Et effectivement, on éviterait beaucoup de situations douloureuses si on s'en occupait.
Merci Louis Osalter, Yves Tréard. Merci.
Merci beaucoup.
Deux. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Allez, Culture Média dans un instant. Au programme, dites-nous tout.
On dira aussi un mot de Jean-Luc Godard. La revue dessinée, vous connaissez ?
Oui.
C'est à mi-chemin entre le journalisme et la BD. Ce sont des vraies enquêtes, du vrai reportage. Mais au lieu que ce soit illustré par des photos, c'est illustré par des dessins. Ils ont démarré il y a 10 ans. On donnait pas cher de leur peau. Ils sont toujours là. Le prochain numéro, c'est un trimestriel, sort demain. On sera avec sa rédac chef Amélie Mouget, l'un des dessinateurs, Aurel. Au sommaire également, Stéphane Bern. Quadruple actu pour Stéphane Bern, je ne peux pas tout raconter.
Il n'arrête pas.
Mais en gros, je veux dire, il va y avoir le loto du patrimoine. Le monument préféré des Français, c'est ce soir sur France 3. Et le monument préféré des Britanniques, la Reine d'Angleterre. Il était à Londres, il va y retourner. Ça sera lundi aussi pour les funérailles. Et puis le scénariste, dessinateur Jules Silex and the City, c'est lui maintenant qui fait les scénars de Lucky Luke.
Ah, pas le rappeur, non, c'est pas
nuances,
le même. Hein.
Non, le rappeur, ça se prononce Jules. Ouais. Ça s'écrit pareil, ça se prononce différemment. 50 nuances de grès, de grec. Justement, il fait des jeux de mots, des calembours partout. C'est aux éditions du Seuil, saga mythologique, érudite, désopilante. Il sera avec nous.
Rendez-vous dans 5 minutes. Excellente journée. Merci beaucoup, Philippe. Bonne émission. On se retrouve demain à partir de 7h. Bye bye.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
AXA, premier assureur des pros depuis plus de 20 ans.
Nickel, ça. Hop, parfait.
Oui, Théo est un serrurier tatillon. Comme il dit,
le détail, c'est la clé.
Mais que voulez-vous ? Ça fait partie de son métier d'être précis. Et ça fait partie d'une autre de bien connaître Théo pour inventer l'assurance qui lui ressemble. Avec l'offre Atout Pro, en cas d'accident, AXA aide Théo et tous les pros à trouver une personne qualifiée pour les remplacer et ainsi maintenir leur activité. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022, selon clause et conditions du contrat.
Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa, c'est le design affirmé.
Pareil pour la Corsa électrique.
Il y a aussi le confort premium.
Pareil pour l'électrique.
Le plaisir de conduire.
Pareil.
Et le prix, 139 euros par mois.
Encore pareil, on va jamais réussir à choisir.
En septembre, pendant les portes ouvertes Opel, profitez des offres sans pareil, électrique ou essence. Opel Corsa ou Corsa Edition.